Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Bonjour à tous, bienvenue dans Parentalité. Aujourd'hui, je reçois 4 profils différents et comme à chaque épisode, l'idée est d'échanger sur une thématique. 4 profils et je vous propose tout de suite d'entamer la conversation.
Mais tu m'oublies, je suis en face de toi mais tu m'oublies.
Non mais toi t'es pas un profil.
C'est parce que toi t'es tout le temps devant, t'es tout le temps en face d'elle.
T'es tout le temps en face de moi. Je vous propose tout de suite de commencer les présentations avec notre chroniqueur qui aime mettre les pieds dans la tasse, Barbe Riche.
Bah, merci quand même. quand même. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Barbe Riche.
Voilà. Tu vas bien?
Ouais, très bien.
T'es prêt à mettre les pieds dans la tasse?
Toujours. Ils sont toujours un peu humides mes pieds quand j'arrive parce que j'ai déjà mis les pieds dans la tasse avant d'être ici.
Christian, comment tu vas?
Bah, super.
Tu vas bien?
Ça va mieux.
Est-ce que tu veux bien te présenter?
Bah, Christian, je suis papa de 3 enfants.
Ouais.
Fille, garçon, fille.
Ok.
17, 15, 12.
Et ton métier, ce que tu fais dans la vie?
Alors, agent immobilier, on a aussi une association. On fait pas mal de choses.
Ouais.
Et on va ouvrir un centre de formation.
Ok, c'est pour ça qu'on parlera orientation aujourd'hui. Nabila, comment tu vas?
Très bien.
Tu nous dis un peu qui tu es?
Donc, merci pour l'invitation déjà. Du coup, je suis Nabila, j'ai 45 ans. Je suis du coup maman de 3 enfants avec Christian. Donc Anaïs.
Est-ce que c'est les mêmes?
Oui, c'est les mêmes, on les a fait ensemble. Donc, une ado, jeune adulte même, de 17 ans. Anaïs, Naël qui a 15 ans et Jasmine qui a 12 ans.
Ok, et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nabila?
Alors du coup, je travaille avec Christian, on a une agence immobilière et on est actuellement sur l'ouverture d'un centre de formation.
Ok, super.
Voilà.
Eladj, comment tu vas?
Bonjour, ça va.
Est-ce que tu veux bien te présenter?
Oui, alors je m'appelle Eladj, je suis éducateur et fondateur d'un club de boxe, père de 2 enfants, d'une fille de 11 ans et d'un garçon de 6 ans.
Ok, bienvenue. Benjamin, qu'on ne présente presque plus.
Ah bah, je viens pas si souvent que ça quand même.
Mais tu vas revenir.
Oui, bah oui. Donc voilà, donc moi, certains m'ont déjà entendu. Donc je suis Benjamin Veil. Je dois dire mon âge? Ouais, on peut le dire. Allez, j'ai 45 ans. J'ai une grande fille de bientôt 22 ans. Et je travaille dans le secteur social et médico-social, avec les travailleurs sociaux et surtout en protection de l'enfance. Voilà.
Bienvenue Benjamin. Barbe Riche, est-ce que tu veux bien te présenter?
Barbe Riche, papa de 3 enfants, 15, 13 et 11. Bon, depuis tout à l'heure, on donne nos âges. J'ai 44 ans, même si j'en fais 25.
On en fait tous 25.
Je travaille dans le socio-culturel depuis 25 ans et à côté de ça, dans le journalisme aussi.
D'accord. Merci Barbe Riche. À chaque échange, vous savez que je suis accompagnée de parents, de jeunes ou de professionnels. L'idée étant d'ouvrir les échanges sur une thématique. Aujourd'hui, on va parler loisirs, sport, orientation, l'impact sur nos enfants. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pratiquiez un sport étant jeune? Et si oui, lequel? Nabila l'a rigolé.
Oui, je peux répondre du coup?
Oui.
Comme ça, ça va aller vite. Non. Personnellement, non. Donc, je ne pratique pas de sport. D'ailleurs, j'en ai jamais pratiqué du coup.
Même quand tu étais enfant?
Ouais, non. Okay. Sauf à l'école, en fait.
Ok.
Sauf à l'école. Après, c'était, je pense, des raisons financières. Okay. Mes parents, qui n'avaient pas nécessairement les moyens. On était 7 enfants, j'étais la plus grande. Après, les plus petits ont pu bénéficier de ça. Mais moi, pour le coup, j'ai pas pratiqué. Ça ne m'a pas manqué, d'ailleurs.
C'est pour ça que tu as rigolé.
Mais oui, c'est ça. Et du coup, j'en ai pas fait non plus après, quoi. Okay. Et ça ne me manque pas, pour être honnête.
Ça ne te manque pas?
Pas du tout.
Bon, écoute.
Mes enfants pratiquent plusieurs sports.
Ah, bah vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'ils font.
Alors du coup, Anaïs qui a 17 ans pratique la natation, n'importe quoi, l'équitation, le tennis.
Ouais.
Jasmine, elle, le football et l'équitation.
Ok.
Et Naël, lui, le football. Mais ils ont pratiqué plusieurs sports.
Ouais, ok.
Voilà, si tu veux, je rentre dans les détails maintenant ou après. Bah,
on aura l'occasion d'en parler.
Très bien.
Christian, est-ce que tu as fait du sport étant petit? Est-ce que tu en fais encore aujourd'hui?
Beaucoup.
Vas-y, dis-nous.
Malheureusement, on est cassé par l'âge. Justement, trop de sport jeune peut entraîner beaucoup de complications. Et finalement, de faire un petit peu de sport et se préserver ou commencer un peu plus tard, ça peut être pas mal pour bien vieillir.
Ok, et qu'est-ce que tu as fait comme sport du coup?
J'ai fait un peu de tout, mais surtout beaucoup de basket.
Beaucoup de basket.
Beaucoup.
On reviendra sur justement les maux du corps et peut-être les maux psychologiques aussi, hein, un peu. Barberiche, est-ce que tu as fait du sport?
Ouais, j'en ai fait. J'ai commencé par les échecs. C'était pas un
le
sport.
Le sport neuronal.
Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai fait des...
Des concours?
Ouais, d'échecs. Un peu de hand, mais principalement du foot. Et après, j'ai dû arrêter vers l'âge de 28, 30, parce que ma femme m'a dit que j'allais mourir sur un terrain, sinon.
Oui, c'est vrai, parce que ce que tu dis pas, c'est que t'es un foot bagarreur.
Non, faut pas le dire.
Ah, faut pas le dire. Ouais, un foot nerveux.
Ouais, en fait...
T'étais celui qui faisait semblant de tomber ou celui qui te faisait tomber?
Non, moi j'étais, milieu défensif, donc c'est moi qui faisais tomber. Mais c'est vrai que dans mon secteur... Du coup, on avait des divisions qui étaient quand même un peu chaudes. Et c'est vrai que le dimanche, c'était quand même...
Ça revenait avec des œils au vert noir.
C'était tendu.
Ouais, mélange de boxe et de foot, quoi.
Ouais.
C'était tendu et du coup, lorsque je me suis mis avec ma femme, elle est venue à quelques matchs et elle m'a dit « Franchement, il faut que tu arrêtes.
Ouais. » Et donc,
c'est à ce moment-là que j'ai arrêté.
C'était donc toi.
C'était lui, le mec qui déclenche la bagarre générale. Benjamin.
Écoute, moi j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, quand j'ai commencé très tôt et j'ai fait partie des premières générations à faire un sport qui n'existait pas avant, qui s'appelle la GRS. Ouais, j'assume, on se moque pas. Et donc j'ai même fait les championnats de France et tout, parce que comme on était les premières générations, ça n'existait pas, c'était facile d'aller très haut. Mais donc j'ai fait ça pendant 12 ans, hein, assez haut niveau. Enfin, ouais. En tout cas, on était quand même en championnat et donc on était bien, bien tirés. Justement, les maux du corps, on en a eu après. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'arrêter juste avant la puberté.
D'accord.
Ce qui était peut-être pas plus mal. Et après, j'ai fait de la danse plus classique. Enfin, plus classique, pas la danse classique, mais de la danse moins gymnastique, rythmique et sportive. Okay. Quoi. Enfin, moins avec les cerceaux, les rubans. Quoi.
D'accord, ça marche. Eladj.
Alors moi, j'ai fait du sport tôt, mais pas façon régulière. J'étais freiné par les problématiques, on va dire, financières.
Ouais.
Donc chaque association à l'époque, on accueillait les gens en septembre, on pouvait faire on va dire un ou deux mois avant de régler la cotisation. Ouais. Et au moins de payer, les priorités à l'époque.
Voilà. Tu changeais de sport tous les un ou deux mois ou pas?
Non, on va dire pas ça, mais bon, à l'époque, le
tous
sport
n'était
pas trop populaire, on va dire. Les parents avaient des priorités comme payer le loyer, nourrir les enfants, donc j'ai pas fait du sport de façon assidue au départ. Et après, je me suis mis dedans depuis 16 ans et jamais arrêté.
Et quel sport tu pratiques depuis tes 16 ans?
Je suis dans le pied-point. Aujourd'hui, je suis entraîneur et j'ai un club de boxe. J'ai commencé par la boxe anglaise, après dérivé au pied-point.
Du coup, on pourra rentrer dans le détail aussi.
D'accord.
Moi, j'ai fait pas mal de sport étant jeune. Après, peut-être parce que je suis née à Fontenay-sous-Bois et que les accès étaient un peu facilités aussi. Et j'ai fini ma carrière sportive dans le volley pendant une quinzaine d'années. Du coup, sport. Quand on dit sport, déjà, qu'est-ce qui vous vient en tête? Christian, tu parlais des maux du corps et de la façon excessive dont on a pratiqué. Est-ce que tu veux bien nous dire un peu?
Jouer beaucoup dehors, parce que je n'aimais pas trop les règles du club. Donc, on préférait aller dehors, se confronter à la réalité. Mmh. On regardait Michael Jordan, c'était un peu l'idole de tout le monde, hein. Ouais. Tout de suite, quand on jouait et que la lune arrivait, on croyait qu'on était Michael Jordan. On devenait grand noir tous, hein. Il n'y a pas d'exception, même le petit chinois. Et tout de suite, avec un numéro 23, on était tout de suite accueillis. Et partout où vous allez, en fait, vous êtes bien accueillis parce que vous êtes un basketteur. Et je trouve que la mentalité du basket, en rapport au foot, elle est quand même vachement... elle est entre le foot et le rugby. C'est quand même une bonne mentale. Et ceux qui jouent dehors, on peut aller jouer partout. Ça, c'est vraiment intéressant.
Et tu avais un peu cette casquette... du jeune populaire, parce que...
Non, nous, c'était... Les populaires, c'était plutôt les footeux.
OK.
Voilà, là, c'était vraiment plus street, c'était vraiment ceux... On venait se défier. On faisait des 1 contre 1, des 3 contre 3, des matchs. Mais moi j'aimais beaucoup le 1 contre 1 parce qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.
Ouais, exact. Et quand tu dis les maux du corps, ça veut dire qu'avec les années, ça a laissé des séquelles?
Personnellement, j'ai un os Gutschleiter, donc j'ai.
Qu'est-ce que c'est?
C'est dans le tendon rotulien, c'est le de l'os qui se forme dans le tendon.
D'accord.
Donc c'est extrêmement douloureux et ça vous calme direct. Donc pendant peut-être 5 ans, je pouvais plus ni courir, ni sauter, ni quoi que ce soit. À partir de 18 ans.
Ok.
Donc, trop de sport, pas dans des terrains béton, non pas de parquet ou quoi que ce soit. Effectivement, c'est pour le corps, c'est un peu dur. Et plus vous avez une grande détente, plus vous atterrissez. Et bon, quand vous faites 75 kilos, ça va. Mais à force, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, effectivement, ça cogne plutôt pas mal.
Ouais, merci d'échanger ça avec nous, parce que du coup, il y a la pratique du sport encadrée, celle qui l'est moins. On va en parler, parce qu'il y a eu quand même toute une histoire autour du catch que les enfants faisaient, etc. Et de la notion de dangereuse. Il y a le MMA aussi qui s'est inscrit aussi dans des pratiques qui sont un peu douteuses. Du coup, qui est-ce qui veut prendre la parole sur justement l'impact, l'importance du sport dans votre parentalité? Comment vous accompagnez vos enfants à travers la pratique sportive?
Moi, je veux bien. Déjà, moi, ça m'a permis de... ça m'a permis de me sociabiliser déjà.
Ok, étant jeune?
Ouais, étant jeune, parce que moi, je suis quelqu'un de très introverti. Et en fait, ma ville, elle était séparée en deux. Elle est toujours séparée en deux par un pont. Donc, il y a mon côté qui était plus un côté pavillonnaire et un deuxième côté qui était plus un peu les quartiers. Et moi, j'allais jamais du côté des quartiers. Je restais dans mon coin. Et le fait de pratiquer le foot m'a permis d'être en contact avec les jeunes de l'autre côté de la ville. Et du coup, après, je suis resté de l'autre côté de la ville. je suis resté de l'autre côté de la ville. Mais vraiment, moi, ça m'a permis de m'ouvrir et du coup, de faire de très, très, très belles rencontres. Et ces rencontres m'ont permis de me construire autrement que je pense que si j'étais resté dans mon petit coin, d'être dans des adversités totalement différentes que je pouvais connaître dans mon quartier. Donc,
ça ouvre.
Donc moi, ça m'a été bénéfique. Ça m'a été bénéfique. Ça m'a ouvert. Et mes enfants, moi, mes enfants pratiquent le sport. En tout cas, moi, je leur ai fait pratiquer le sport pour différentes raisons. Il y en a une que j'ai emmenée du coup chez Eladj parce qu'elle était introvertie.
Okay.
Ma première était introvertie. Elle revenait de l'école en pleurant, on m'a embêté, on m'a tapé. À la maternelle. En fait, c'est même pas forcément la boxe. Je me rappelle que à l'époque, il était très difficile de trouver un sport pour les enfants de 5 à 6 ans.
Exactement.
Et là, en fait, je crois que c'était même ta première année où il mettait un créneau, ou en tout cas, il prenait les enfants à partir de 5-6 ans.
4 ans.
Non, ouais, à partir de 4 ans.
C'est tôt.
Et ouais. Du coup, comme on est amis d'enfance, il m'a proposé, il m'a dit voilà, j'ouvre une section pour les 4 ans. Moi, ma fille avait à peu près cet âge-là. Si tu veux, tu peux l'inscrire. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, c'était pas forcément parce que c'était un sport de combat, mais parce que déjà, dans un premier temps, il y avait la possibilité de faire du sport. Et je savais qu'à travers un sport de combat, elle aurait travaillé sa confiance. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise dans ce sport-là au départ. Elle en fait encore. Donc là, ça fait quoi? Peut-être 9 ans qu'elle en fait. Alors, ça fait 9 ans qu'elle en fait. Après, nous, c'est vrai qu'on a instauré chez nous le fait de faire deux sports. On a dit qu'on imposait un sport, la boxe, parce qu'on on avait décelé certaines vertus, certaines choses intéressantes dans la boxe. Donc, on s'est dit, en plus, j'ai 3 filles, je me suis dit, on vous demande de faire la boxe et vous en choisissez un autre de votre choix. Donc c'est vrai que très longtemps, elles en ont fait deux. Elles ont fait deux sports, toutes les trois. Là, il n'en reste plus que deux, qu'en font deux, je crois.
La deuxième, elle a quitté le navire.
Elle a quitté le navire, mais c'est vrai que...
Mais c'est bien que déjà qu'il ait réussi à imposer un sport. Enfin, nous, c'est pas... C'est
ouais,
pas,
nous,
pas gagné,
nous, en tout cas, on leur a... Bon, après, elles aimaient bien. La preuve,
ça change tout.
La preuve, elle continue. Ouais, hein, oui. C'est-à-dire que là, quand je dis j'impose... C'est que on les a.
Elles ont essayé en tout cas.
On a préconisé un sport. Du coup, on a fortement insisté. Même pas insisté, on a vraiment proposé ce sport-là. Elles ont pratiqué. Il y en a deux vraiment qui s'inscrivent totalement dans ce sport parce que ça fait plusieurs années qu'elles le pratiquent. Il y en a une qui a dit à moi.
Elle a fait un an et puis après, elle a pu dire que c'était pas son truc. Donc l'idée c'est aussi comment nous on met le pas à l'étrier quand on trouve des vertus ou en tout cas quand on a l'impression que ça peut apporter. Et après c'est comment nos enfants s'inscrivent ou pas dans la discipline et comment on lâche. Et là je te voyais réagir quand j'ai posé la question du sport et comment il s'inscrit dans ta parentalité.
Alors dans mon cas le sport c'est un conseil que je donne à chaque parent en fait. Moi j'ai fait du sport de ma volonté. Beaucoup de parents imposent ça à leurs enfants, mais moi, par exemple, je suis passionné de boxe. C'est mon sport. Mais mes enfants font le sport de leur choix. Tant qu'ils font un sport qui leur correspond, ça correspond à leur caractère, à leurs besoins, il faut les accompagner dans ce sport-là. Il ne faut pas pousser un enfant vers un sport en particulier, il faut pousser un enfant vers un sport qu'il a choisi. Et lorsqu'on force quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, il le fait à contre-cœur, il le fait mal. Une personne qui choisit un sport, c'est comme une activité, peu importe l'activité, elle le fait à 100%. Lorsqu'on aime ce qu'on fait, on progresse. Et le sport, pourquoi c'est important de faire du sport par rapport aux problèmes cardiovasculaires, par rapport aux problèmes de surpoids, de la malbouffe aujourd'hui.
C'est clair.
Donc les parents travaillent beaucoup, on n'a pas le temps de vraiment faire des plats, on va dire, équilibrés pour les enfants chaque jour de la semaine. Donc en faisant du sport, ça compense beaucoup. On élimine les toxines, tout ça. Donc pour moi, le sport, c'est quelque chose qu'on doit conseiller à tous les enfants aujourd'hui. Voilà, je le recommande.
Oui, je souriais parce que c'est vrai que moi, je me souviens quand moi j'étais petite, il y avait un petit litige entre mon père et ma mère. Ma mère était très pro-sport et mon père disait que c'était dangereux pour la santé quand même. Hein. Enfin, que justement c'était mieux de le regarder à la télé, que c'était quand même vachement plus sécure.
Nabila se reconnaît dans voilà. ce que tu dis. C'est vrai que c'est dangereux.
Non, mais,
après, les mentalités évoluent avec le temps aussi.
Non, mais il y a de ça et c'est pour ça que justement, enfin, moi je sais que j'ai toujours eu cette espèce de jonction où il y avait, voilà, c'était une négociation entre mon père et ma mère, le rapport au sport, mais on a tous fait un peu du sport quand même. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'est assez marrant parce que ma fille a fait à la fois du basket parce que là, pour le coup, pour moi, c'était important étant fille unique d'être dans un sport co. C'était même hyper important la notion de sport co pour moi. Enfin, c'est-à-dire dans le rapport à l'autre, dans le rapport aussi au collectif, à jouer ensemble, perdre ensemble, gagner ensemble. Enfin voilà, cette dimension aussi de moins individualiste pour le coup. Et une fois à l'adolescence aussi parce que c'était une fille et que voilà et que je trouvais que c'était quand même important de justement d'avoir des éléments de défense. Elle a fait du pied-point après. Enfin et donc c'est assez marrant de voir comment finalement bah pour moi ça a toujours été hyper important qu'elle ait une activité sportive. Genre, j'aurais tendance à te rejoindre et là dans l'idée que c'est elle qui a choisi. Je lui ai dit voilà sport co tu choisis. Puis elle aujourd'hui même le hand ou le volley elle kiffe. Même là dans ses études supérieures elle était dans des groupes de badminton. Enfin voilà alors c'est des sports qui pour moi n'en sont pas. Quand elle me dit qu'elle fait de la pétanque pour moi c'est pas du sport. Mais mais c'est une forme de sport aussi. Enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est comment avoir des activités qui permettent en effet de pouvoir sortir un peu du tout intellectuel aussi. Enfin moi je trouve que c'est important de ne pas être que dans la tête quoi.
Si je peux intervenir, je dirais que le sport c'est aussi l'équilibre entre l'école, qui est où on a beaucoup de pression, beaucoup d'objectifs à atteindre, et le sport. En tout cas chez moi, c'est pas forcément dans le but de devenir champion. C'est déjà pour extérioriser un petit peu. Se libérer un peu de la pression qu'on a au quotidien, se défouler exactement.
Tu donnes une bonne perche là. Parce que quand tu dis pression, c'est pour enlever de la pression. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les parents, des fois, dans nos positionnements ou dans ce qu'on peut voir autour des terrains ou dans les gymnases, il n'y a pas des projections là, de futurs champions et de pression
ouais. Allez, je vais juste prendre la parole si ça vous embête pas. Parce que je voulais faire un. Enfin, répondre à ta question précédente.
Si ça nous embête, Nabila, tu poses ta tasse et tu sors.
Non, mais juste sur la question d'avant.
Mais si, t'as raison.
En fait, moi, j'ai des enfants qui sont hyperactifs et qui ont des troubles... mince, et qui ont des troubles de l'attention.
OK.
D'où l'intérêt aussi de faire du sport. Parce que c'est vrai que c'est important, quand t'es hyperactif, de pouvoir, justement, tu disais, je rebondis là-dessus, pouvoir s'extérioriser, pouvoir aussi canaliser le truc. Donc effectivement, moi, je n'ai pas pu faire de sport. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne m'a pas forcément dérangée. Mais pour eux, c'était nécessaire. Après, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Barberiche, nous, on n'a pas imposé, mais on a aussi fortement conseillé. Bon, d'ailleurs, ils ont laissé tomber plein de sports entre-temps. Mais il y a des choses qui sont restées, comme pour la grande, par exemple, Anaïs, qui a fait, elle, de l'équitation. Le fait de se retrouver avec un cheval, elle était aussi hyperactive petite, ça l'a vachement calmée, quoi. tu vois. Et du coup, ça a été dans le sens de sa personnalité, tu vois. Donc, on a essayé de trouver un équilibre entre sa personnalité elle et celle de l'animal, parce qu'au final, tu es obligé de t'adapter, quoi.
T'es obligé.
Donc, voilà, c'était juste pour faire un point par rapport aux troubles et au handicap, parce que c'est vrai que le sport peut aussi servir cette cause, quoi.
C'est ça.
C'est une thérapie.
C'est un peu ce qu'il disait Barberis, par exemple, quand la boxe est devenue, pas une évidence, mais en tout cas, de pouvoir toucher du doigt un sport où il y a des valeurs et où on t'apprend, parce que finalement, que quand tu boxes sur un ring, tu te bagarres pas dehors normalement, tu vois. Quand tu fais les arts martiaux, etc., t'as pas le droit de t'en servir à l'extérieur. Ouais. Et du coup, les enfants, ils développent, quand ils ont bien compris qu'ils ont un bon coach, d'autres facilités, d'autres capacités à gérer les conflits à l'extérieur. Exactement. Mais en tout cas, ils sont en confiance. Mais après, selon les profils des enfants, nous, la deuxième, elle a fait un an. Après, elle a dit, ah non, pas la boxe. Et elle a fini à la piscine.
Voilà, tranquille.
Pendant des années.
C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcer la main. Il faut regarder par rapport au caractère de la personne.
C'est ça.
Peu importe le sport.
Après, c'est bien, pas de forcer, mais d'indiquer la piste.
Ouais,
elle l'a fait pendant un an. Exactement.
Ouais,
parce qu'elle peut aussi dire, oh non, c'est violent. Et finalement, dire, ah, c'est super.
Bien sûr.
Je me découvre, je me rends compte que je fais mal. Je me rends compte qu'il est costaud, bah, pas tant que ça. Et de rééquilibrer. Tout à fait.
C'est ça. Et puis après... justement, est-ce que ça ne fait pas sens avec notre rôle, notre devoir en tant que parents, qui est de guider, de faire des propositions à nos enfants par moment, et on parlait justement de la pression. Qu'est-ce que vous pensez de ces parents-là alors en plus, toi, ma Sarthe, coach.
Alors, moi, j'ai lâché l'expression tout à l'heure, j'ai l'expression projet Mbappé par rapport au foot, mais aussi dans la boxe, ça existe. Des parents qui ont plus d'ambition que leur enfant. Je veux dire, c'est le cas des parents qui n'ont pas eu la chance de pouvoir pratiquer étant jeunes et qui se projettent à travers l'enfant pour avoir des objectifs. Voilà. Donc moi déjà, dès qu'un parent il vient, j'écoute le parent, je regarde l'enfant, je regarde le rapport qu'ils ont.
L'interaction.
Et dès le départ, j'explique aux parents que c'est le sport de l'enfant, qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre. La première des choses, c'est que l'enfant prenne du plaisir à venir ici. C'est pour son développement personnel, pour son bien-être. Donc si le parent il a forcément l'ambition de faire la compétition, je lui dis c'est le mauvais club. Moi, je suis au service de mes élèves. Donc, je suis là pour que l'élève il prenne du bon temps à l'entraînement, qu'il gagne en confiance, en assurance. C'est la première des choses à faire. Si vous voulez, la compétition, ça ne représente rien dans mon club. Par rapport à l'effectif, c'est très, très peu. Moi, c'est vraiment le développement personnel de l'enfant. Donc, les parents, il faut savoir les freiner quand ils ont trop d'ambition.
C'est un vrai problème, ça.
Ah oui. Oui.
Nous, on l'a vu, tu sais.
C'est l'argent qui est derrière, en fait.
Ouais, exactement. Mon fils Naël, donc, a 15 ans maintenant, il faisait du foot étant tout petit. Et lui, en fait, il s'éclatait sur le terrain, quoi. Mais il s'amusait vraiment bien. Par contre, bah, il n'était pas super doué, quoi.
C'est pas grave.
Bah, les autres, ils n'étaient pas de cet avis.
Mais oui, mais les autres n'étaient pas de cet avis à l'âge, tu vois.
Dans ce que vous dites.
Les mecs, ils venaient parce qu'ils pensaient que tous que ça allait être des Zidane, parce que c'est plus ma génération. Mais en fait, il n'y en a aucun qui est sorti Zidane, mais mon fils s'est éclaté.
Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Par exemple, ma fille, elle avait un club de gym pendant 2-3 ans. Quand j'allais la voir, bah, moi, j'étais triste. Parce que je trouvais que sa prof n'était pas compétente. Mais ma fille rentrait épanouie. Non, c'est bien, t'as vu ce que j'ai fait tout à l'heure? Je dis oui, j'ai vu.
Donc c'est cool.
Et dans mon rôle de parent, ma fille était heureuse après sa séance de sport. Ce que je pensais de la coach, ça me regardait, je regardais pour moi. Je dis ah, c'est bien, oui, j'ai vu. Ma fille est rentrée épanouie, elle était fière d'elle. Eh bien, ça sert à rien de dire, c'est pas bon.
Ben, c'est ça.
Voilà, donc elle a fait ses 3 ans avec sa prof, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi.
Exactement. Voilà. Ouais.
Tant que l'enfant, il est heureux, il grandit, il s'épanouit, il faut le conduire dans.
Mais nous, on l'a laissé, on lui a dit il n'y a pas très longtemps, là, il y a genre, on en a parlé il y a un mois.
Je dirai plus tard aussi que.
Elle
était pas top.
Non, mais Naël, tu faisais n'importe quoi. Mais non, mais c'était cool.
Ouais, mais c'est ça. Et comment nous, on interfère?
C'est quoi le but premier?
Mais c'est ça.
Mais c'est vrai que la question de fond que tu poses là et qu'on est en train de se poser, c'est la question de la compétition. Et c'est vrai qu'on a tendance à considérer que le sport, c'est uniquement côté compétitif. Alors qu'en fait, le sport, c'est d'abord...
bien-être.
C'est d'abord du plaisir. C'est vraiment un truc de plaisir d'être ensemble. C'est une activité extrascolaire, j'ai envie de dire. Ça peut être pour ça que même la pétanque, ça peut être... Enfin, il y a un truc un peu sportif, du moment qu'on est en équipe. Et il y a, en fait, aujourd'hui, cette espèce de truc de... Quand on fait un truc, c'est toujours pour exceller. Alors que non, en fait. Et ça marche aussi avec l'école, en fait, ce que je suis en train de dire là. C'est qu'on a trop tendance à vouloir toujours être le meilleur partout. Alors qu'en fait, bon, c'est pas parce que tu vas être le meilleur en boxe que tu vas forcément être le meilleur en basket ou en foot, enfin déjà.
Pour moi, ça vient des parents, cette compétition.
Ça vient pas des enfants, ça, on est d'accord.
Non, c'est des parents qui veulent que leur enfant ait l'excel.
Et c'est la société même, j'ai envie de dire, dans son ensemble.
C'est l'enfant aussi qui choisit.
La société aussi.
La société, mais il y a des coachs aussi. Il y a des coachs, quand tu les vois, c'est leur projection à eux.
C'est vrai ce que tu dis, par exemple, bon, Naël, lui, c'était pas du tout compète. Par contre, Anaïs, qui a fait de l'équitation et qui vient de reprendre après 6 ans d'arrêt, Elle, elle a fait de l'équitation toute petite à partir de 3 ans jusqu'à 11 ans. Et elle a fait les championnats, elle est arrivée vice-championne de France, etc. Mais c'était son choix personnel, alors qu'elle était petite, parce qu'elle est compétitrice. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marguerite, en fait, c'est s'adapter à l'enfant.
Au caractère.
Tu vois, au caractère de l'enfant.
Mais il y a les coachs aussi. Moi, par exemple, ma deuxième, elle a fait de la natation, elle a commencé bébé nageur. Donc celle qui n'a pas adhéré à la boxe, et Iliana, elle a été bébé nageur, elle a nagé, elle excellait. Elle était rapide, elle était vraiment efficace. Et tellement, en plus la natation c'est un sport un peu particulier, tout le monde voulait qu'elle fasse de la compète, sauf elle. Et nous en fait on a dit au coach, elle ne veut pas faire de compète, elle veut juste venir nager, faire son petit truc, et elle est bien comme ça. Et ben elle a arrêté cette année. Parce qu'à un moment donné, cette pression. Du coach autour de la nécessité d'aller en compétition parce que tu es doué, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas normal de laisser un talent au fond du bassin d'entraînement, et ben, ça l'a fait renoncer à une passion.
C'est-à-dire que
et cet été, pour la première fois, elle n'a pas mis les pieds dans l'eau à la piscine, tu vois. C'est-à-dire que des fois...
Ils l'ont dégoûté,
en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un coach, c'est aussi un parent. Donc dans la parentalité, des fois les rôles s'entremêlent entre le coach et le parent. Est-ce qu'il y a des bons coachs, est-ce qu'il y a des bons parents, il faut voir aussi ça.
Moi j'ai eu une longue expérience de coach au foot. Après mon arrêt.
Il
est passé de l'autre côté.
Après mon arrêt.
Bravo Ami.
Après mon arrêt, j'ai eu l'opportunité d'être coach et je rejoins Eladj quand il dit que en fait les valeurs de l'individu du coach sont transmises à son groupe ou à son élève. Et oui, j'ai rencontré plein de coachs qui étaient uniquement dans la compétition, mais n'étaient pas dans cette notion de plaisir, comme disait Benjamin, ou
d'éducation.
Ouais, d'éducation ou de bien ou même de bien-être. C'est-à-dire que moi, ce que j'essayais de faire lorsque j'avais mon groupe au foot, c'était d'une part qu'ils prennent plaisir et qu'ils se sentent bien. C'est-à-dire que créer un groupe où il y avait de la cohésion, où il y avait de l'entente, où il y avait aussi de la détente, même si on était dans quelque chose de sérieux parce qu'on était dans de la compétition. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est... je pense qu'il y a beaucoup de coachs, et on peut le voir au bord des terrains, là je vous parle du foot, qui laissent les valeurs et les principes sur le côté et qui ne sont que dans la gagne. Et malheureusement, ils oublient que le sport, pour moi, c'est aussi une école de la vie. Parce que tout à l'heure, moi, je vous parlais de la sociabilisation, ça m'a permis la sociabilisation. Et ben, je pense que le respect des règles passe aussi à travers le fait d'exercer un sport. Et malheureusement, si on a un mauvais guide, je pense que ça peut avoir des répercussions aussi sur notre comportement dans la société.
Ça se reflète, oui.
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Ouais.
Pour moi, le sport, c'est un complément d'éducation. Et c'est vrai je parle de la boxe ou même tous les sports co, les élèves sont à l'image de leur coach. Ce que tu leur enseignes, ce qu'ils vont partager, ce qu'ils vont diffuser. Si on apprend, par exemple, à dire bonjour aux gardiens en arrivant, à ramasser des papiers en fin de séance, et ben ils vont le faire naturellement. Mais si le coach est le premier à cracher par terre, que fera le reste de l'équipe? Vu que le coach, c'est la référence, c'est un peu le grand frère, c'est l'exemple. Beaucoup de gens regardent le coach en disant « je veux être comme lui un jour ». Donc si déjà on montre le mauvais exemple, il sera répété et ça va être dur à...
Ouais, excuse-moi en t'écoutant, je pensais à toutes les affaires de coachs qui ont abusé de leur...
C'est d'actualité, c'est d'actualité en plus.
C'est exactement ce qu'il disait. Ouais. Voilà, et ça va dans ce sens-là, c'est que c'est vrai que... c'est vrai qu'en fait, moi, c'est vrai qu'en termes de parentalité, je dis souvent qu'on n'est pas élevé que par ses parents. Et que dans les... Enfin voilà, il faut un village pour élever un enfant et on a un collectif d'adultes et j'ai envie de dire le coach sportif, l'enseignant, le prof de théâtre, enfin le voisin parfois aussi. Tous ces gens-là ont un rôle à jouer dans l'éducation qui est quand même un sport co, justement, l'éducation. Qu'on soit seul ou pas, d'ailleurs, c'est toujours un sport co, justement. Et il y a un enjeu et l'idée n'est pas d'être en compétition justement avec la famille d'à côté. Il y a ce truc-là aussi qui est que finalement, à travers le sport, on va apprendre aussi les rapports de la vie et parfois aussi les rapports de domination, en fait. Et un coach peut être aussi dominant et donc abuseur aussi, parce que justement, il a des personnes vulnérables en face de lui. Parce qu'un groupe d'enfants, que ce soit d'ailleurs une équipe de basket, que ce soit un groupe, j'ai envie de dire, d'enfants dans un cirque d'équitation, que ce soit dans une salle de boxe ou quel que soit, c'est des jeunes qui sont aussi
en recherche de repères et en vulnérabilité parce qu'ils sont en construction. Et donc, c'est facile aussi d'abuser d'eux dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que ce soit un abus au sens de l'agression physique, mais ça peut être aussi des abus psychiques aussi, parce qu'on a vu aussi certains coach ou, voilà, ou enseignant ou autre, mais qui peuvent aussi à un moment s'approprier quelque chose de la personne, de l'enfant, en fait, et quelque part régler leur propre compte, que ce soit avec leurs propres enfants, leur propre histoire, enfin voilà, à travers un ou deux enfants aussi, qui vont se retrouver en plus à être un peu portés au nu par ce coach pendant un temps, donc avec un rôle particulier au sein de l'équipe, et qui va les amener parfois à ne plus pouvoir retrouver quelque chose de l'équilibre au sein du groupe aussi. Donc, je trouve que c'est très important de garder en tête la responsabilité qu'ont les adultes, quels qu'ils soient vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en faire nos choses, quelles qu'elles soient.
Et quel que soit notre rôle, parce qu'être parent, ce n'est pas avoir... nos enfants ne nous appartiennent pas, en fait. On les met au monde, on a un devoir, mais ce ne sont pas nos propriétés. Et tu vois, dans ce que tu disais, Benjamin, il y a cette notion de confiance. Ça veut dire que quand l'enfant est en confiance, bah, l'adulte peut lui demander, en tout cas, obtenir de lui des choses, bonnes ou moins bonnes. Et du coup, quel levier on a en tant que parents dans l'éducation de nos enfants pour justement qu'ils soient en capacité soit de faire la part des choses, soit de déceler. Parce que les abus... et notamment tout ce qui est abus, agressions sexuelles, parce qu'à un moment donné, c'est pas assez abordé dans les familles. À quel moment on prévient notre enfant? On prévient souvent de faire attention à la personne bizarre, mais est-ce qu'on le prévient de faire attention à la personne qui est justement super sympa,
justement, super bienveillante? Il y a trop de tabous, et des fois, on a peur de froisser certaines personnes de notre entourage ou de la famille, alors que, par exemple, moi, dans ce qui me concerne, j'aime pas que ma fille s'asseye sur les genoux de ses cousins ou de ses oncles. Oncle ou même de famille proche, quoi. On sait jamais.
Nous, pareil.
Le mal est partout. Et des fois, on croit que c'est qu'à la télé. Non, ça arrive partout. Très souvent, les proches.
Je crois que c'est 4 sur 5, ouais.
90%. Oui, 90% des agressions sexuelles sur enfants se font par l'entourage ou par la famille proche.
Mais oui, mais parce qu'en fait, on leur demande de faire attention à l'extérieur, mais on leur dit pas faire attention à l'intérieur.
Nous, on en a parlé tout de suite avec nos enfants.
Tu nous expliques ?
Tout le temps. De manière très naturelle, en fait. Tout de suite, j'ai dit à mes enfants qu'il fallait faire attention, de manière vraiment très claire, qu'il ne fallait pas que quelqu'un te touche, te déshabille, touche tes parties intimes, mais vraiment...
La manière de te parler aussi, parce qu'on a eu un souci avec un prof de tennis.
Ouais, qui était un peu spécial, bizarre.
Et elle était... Quel âge elle avait ? Elle était petite, hein. Elle avait le discernement.
Elle avait peut-être 6 ans. Et puis on a mis ce rapport de confiance qui fait qu'ils nous disent tout, quoi. En tout cas, pas mal de choses. Et du coup, surtout celle-ci.
Et elle a eu le discernement à 6 ans de dire c'est bizarre.
Oui, elle m'a dit.
6 ans.
Elle m'a dit il est un peu bizarre. Il m'a demandé si j'étais amoureuse de lui.
Oh.
Et moi, j'ai trouvé ça très space, en fait, qu'une personne.
Adulte.
Voilà, ouais, c'est ça, de poser ce genre de
dépositaire d'autorité, parce que pour eux, c'est les parents qui veulent de la compétition. On va revenir là-dessus. Ils vont encourager l'enfant sur la compétition. Donc on ne remet pas le coach en question.
Exactement.
Parce qu'on a un seul objectif commun.
Mais oui.
Quand finalement, lui n'a peut-être pas le même objectif.
Exactement.
Et ça, c'est un vrai problème.
C'est un réel problème.
C'est pour
problème.
Ça qu'il faut freiner les ardeurs des parents.
C'est ça. Mais oui. Mais nous, on en a parlé clairement. Vraiment. Et pourtant, j'ai une culture maghrébine où c'est vraiment les trucs tabous, quoi. Ces trucs, on n'en parle jamais.
C'est tabou partout.
Enfin, en tout cas, je parle
le sexuel, c'est tabou partout.
De ce que je connais, mais tu vois, par exemple, moi, je me souviens, mes copines, à 13-14 ans, leur maman, elle disait, viens, je t'emmène prendre la pilule, quoi. Ce qui n'était pas le cas chez nous.
Ouais. Non, mais, après, ça
tu vois, c'est dans ce sens-là où je te dis ça, tu parles pas de sexualité, tu n'en parles pas du tout, ça n'existe pas, tu n'as pas le droit, quoi. Et du coup, donc nous, on en a toujours parlé de manière totalement naturelle et avec mon fils. Parce que ça peut toucher aussi les garçons.
Bien sûr.
Mais vraiment.
Et ça touche même très... Excuse-moi, je me permets, mais en fait, on a tendance à oublier, mais c'est le gros de la pédocriminalité pour les moins de 12 ans, c'est des petits garçons, pas des filles.
Et parce que il y a écrit au secours, alors
exactement.
Que les garçons,
les filles,
ont encore honte.
Et les filles deviennent victimes et deviennent des cibles et potentiellement des proies qu'à partir de 10-12 ans, en fait. Rarement en dessous. Alors ça arrive, attention, toujours. Mais la pédocriminalité, la pédophilie, c'est essentiellement les petits garçons.
Parce que c'est pas du tout le même profil d'agresseur.
Exactement.
Et pour revenir sur le rapport du coach et des enfants,
il
faut faire attention. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un reportage qui parlait de pédophilie liée au sport. Ouais. Par rapport aux coachs qui sont... Les parents font confiance aveugle pour atteindre l'objectif. Ouais. Et on voit souvent des enfants de 8 ans, 10 ans, dans un minibus avec un enfant... Avec un... Enfin, des coachs avec un enfant, ouais, trop régulièrement. Bien sûr. Et les parents, ils n'ont aucun contrôle là-dessus.
Bah là encore, il n'y a pas longtemps, on a vu la joueuse de tennis qui a parlé à l'Assemblée nationale.
Oui, oui, oui.
C'est flippant, c'est très flippant.
Et puis après, je pense qu'on aura carrément un plateau sur l'inceste, parce qu'il faut, faut en parler. Mais il y a aussi cette question des relations affectives, parce que souvent on entend parler d'amour chez les enfants de 6 ans, alors qu'à 6 ans, je ne suis pas sûre que l'enfant, lui, quand, il peut aimer son copain, sa copine.
Il ne connaît pas la définition de mot amour.
Il aime jouer avec lui, il aime, de la même façon, il aime jouer avec sa copine que son copain. Et c'est l'adulte qui projette sur lui une relation amoureuse. En disant c'est ton amoureux, mais en fait je t'ai rien demandé, c'est juste mon copain, j'aime bien.
Un enfant, c'est innocent, c'est dans un monde d'enfants.
Tout à fait.
Bah, c'est dans un monde d'enfants, pas forcément toujours innocent, dans le sens où ils font des trucs tout à fait conscients, mais c'est un monde d'enfants, donc c'est pas le même référentiel. On a, et c'est là où c'est vrai que cette relation amoureuse et avec derrière, parce qu'en fait quand on demande est-ce que t'es un petit amoureux, il y a quand même une dimension sexuelle.
Bah, oui.
En fait, déjà c'est très hétérosexiste, déjà. On demande rarement à un petit garçon s'il a un amoureux. Déjà.
Et même, est-ce que, et même quand on voit deux petites filles ou deux petits garçons jouer ensemble,
on se pose pas la question qu'ils soient
amoureux. Est-ce que vous êtes amoureux? C'est dès lors que c'est des sexes opposés qui sont tout le temps ensemble, mais en fait pour eux c'est on joue.
Oui, mais
quoi.
Ça c'est une vision d'adulte.
Oui, c'est ça.
Nous, on rapporte tout au sexe, alors que des enfants ils s'amusent naturellement, gentiment, quoi. Comme on l'a fait à l'époque.
On aura un débat, aura un plateau dessus. Juste avant de passer aussi faire une transition sur l'orientation, Barberiche met les pieds dans la tasse, le sport. T'es prêt?
Ouais. De toute façon, moi, je... Et là, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je voulais parler de la frustration et des envies des parents qu'ils projettent, ou en tout cas qu'il y a une espèce d'effet miroir chez les enfants. Et tu parlais du projet Mbappé. Mm-hmm. Tu vois, je voulais parler de ça parce que je trouve que il y a beaucoup de parents qui abîment leurs enfants parce que ils veulent être à la place de leurs enfants. Je ne sais pas si vous voyez.
Ils veulent briller à travers eux.
Voilà, ils veulent briller à travers eux. Donc c'est pour ça que je parlais d'envie et de frustration. Mmh. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment
canaliser le parent.
Comment canaliser le parent? Et est-ce que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société
compétition.
De malades.
Compétition directe.
Mais c'est les parents qui sont le plus malades.
Bien sûr.
Parce que souvent, dans les débats, on indexe souvent les jeunes ou les enfants. Mais est-ce que la gangrène...
La gangrène, elle est bien. Elle est bien. J'ai bien aimé.
C'est ce qui la gangrène.
Je suis confronté à ce qu'il est en train d'expliquer.
Non, mais
c'est pas les parents.
Je suis sûr que c'est ce qu'il voulait dire.
Je suis confronté à ce qu'il est en train d'expliquer, ce qu'il essaie d'expliquer. Et moi, dès d'entrée, dans le club, quand tu signes, on a une fiche d'inscription. Et en bas, on a la signature de l'enfant mineur et du parent. Et tu signes après avoir lu une charte. Et dans la charte, il est précisé que la compétition, c'est seulement les coachs qui décident de qui peut faire des compétitions ou pas. Une façon de protéger l'enfant, en fait.
C'est top, ça. Voilà.
Une façon de faire comprendre aux parents que c'est pas parce que ton enfant il est fort qu'il va boxer.
Il
vient pour s'épanouir. Et c'est pas que l'enfant. Parce qu'après, c'est un tout chez nous. Il y a un paquet. Il faut le comportement, l'école, tout ça.
Alors, du coup, sur cette question de gangrène qui vient des parents, Massar, du coup, tu nous as donné ton point de vue. Est-ce que les autres voulaient dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que c'est pas nous, en tant que parents, qui, des fois, dans nos comportements, on change un peu l'histoire?
Bien sûr.
Je pense que les adultes, de toute façon, au sens global du terme, ont une influence beaucoup plus importante qu'on ne le croit sur les enfants, qui ne sont qu'en devenir, donc qui ne sont pas finis, et qui la compétition vient de la société dans son ensemble. Moi, c'est vrai que là où je nuancerais un tout petit peu ce que disait Barberiche, c'est que...
forcément, il a cassé les tasses.
Ouais, il l'a cassé bien, 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 là. C'est que finalement, les parents sont aussi eux-mêmes pris aussi dans ce qu'on appelle l'ère du temps, dans l'idéologie dominante, dans la manière dont la société se retrouve, ce qu'on appelle les enjeux sociétaux. Les parents sont pas non plus aucun d'entre nous ne vit sur une île déserte, donc on est tous interdépendants et liés aussi à cette ère du temps. Donc les parents sont dans la compétition parce que le système l'est depuis les années 50. Enfin, je vais être très claire, là pour le coup, c'est plutôt le capitalisme qui nous met là-dedans.
Une question d'élitisme aussi. de prestige, d'élitisme, de réussite. Et puis dans certains sports, il y a des enjeux financiers.
Et de besoin, bah, c'est ça le projet Mbappé d'ailleurs. Parce que c'est vrai que d'ailleurs, il y a un titre de Sadek qui s'appelle Projet Mbappé d'ailleurs. Mais justement, où il parle à son fils et il lui dit que le projet Mbappé est très loin quand même. Mais il y a cette idée finalement, à travers le projet Mbappé aussi, c'est qu'on nous offre comme possibilité de réussite, c'est quoi les parcours qu'on nous présente quand en plus on vient de quartier, c'est quoi les parcours qui sont présentés. En gros, pour pouvoir réussir, c'est être bon en sport et a priori en foot parce que c'est là qu'on gagne le plus d'argent, et ou devenir un rappeur aujourd'hui. Et donc il y a quelque chose aussi où les figures qui s'en sortent, les figures qui peuvent justement redistribuer, qui peuvent amener, sont des figures qui sont les figures qui ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est là où c'est compliqué aussi pour les parents. Je fais exprès de nuancer un tout petit peu, c'est que pour eux, on leur explique aussi qu'être un bon parent, c'est avoir des enfants qui réussissent, donc qui gagnent bien leur vie. Parce que dans les représentations, réussir, c'est bien gagner sa vie. C'est donc être riche. Et comment être riche? Le plus facile pour être riche, si t'es pas le meilleur à l'école, et encore d'ailleurs à l'école, même si tu fais des hautes études, c'est pas pour ça que tu vas devenir riche, c'est plus pratique d'être footballeur quand même.
Et puis il y a beaucoup d'exemples de gens très riches qui n'ont pas fait d'études.
Exactement.
De plus en plus.
Du coup, parfois c'est un peu compliqué parce que du coup, ils te disent mais pourquoi je vais aller bosser? Enfin, je parle pas des miens perso, mais il y en a, tu vois, qui te disent mais pourquoi je vais aller bosser? Parce que t'as des influenceurs qui sont... Ouais. Pété d'oseille, t'as des, tu vois ce que je veux dire.
Donc le curseur a bougé
et tout a éclaté. Donc l'idée, c'est est-ce qu'avant d'éduquer les enfants, on ne devrait pas nous s'éduquer soi-même? Enfin, en tout cas, tenter de s'éduquer, d'où l'intérêt effectivement de tout, voilà, de la parentalité.
Je voudrais juste revenir sur le projet Mbappé.
Vous êtes d'accord?
Par rapport au projet Mbappé, moi, le constat que j'en fais, on dit Mbappé parce que c'est par rapport au foot, c'est le sport le plus populaire, mais il y a pas que dans le foot que c'est comme ça. Pour moi, c'est une façon que les parents ils ont.
Cédric Doumbé aussi.
Voilà. Pour moi, c'est une façon que les parents ils ont de lever le pied, de se cacher derrière l'enfant pour ne pas travailler. Ils cherchent à accéder à la richesse, les parents eux-mêmes.
Un placement.
Bien sûr. Ils cherchent à ce que leur enfant leur apporte de quoi.
Alors, je suis totalement d'accord.
De quoi subvenir à leurs besoins.
Voilà. C'est comme s'ils jouaient au loto, mais avec plus de chance.
De 8 ans, par exemple, de 8 ans, 9 ans, qui sont au foot,
qui ont un
niveau correct, même pas un bon niveau, qu'un niveau correct. Et je vois les parents derrière qui leur mettent des coachings intensifs. Pour faire quoi?
C'est une forme d'exploitation.
Il n'y a même pas de plaisir, exactement.
Oui, c'est hyper violent.
Pour moi, c'est les parents qui se cachent derrière l'enfant pour accéder à la richesse.
Et il y a même des parents qui...
En foot ou ailleurs.
Qui participent
beaucoup
au
foot.
Décrochage scolaire de leurs enfants. Parce que ne prennent plus en compte le besoin de l'enfant, son rythme, les heures de sommeil, etc. Et mettre le curseur du sport...
C'est le côté financier, le premier...
Au-dessus du curseur de l'éducation, l'instruction en tout cas, à l'école. Et c'est une très bonne transition parce que du coup, Christian et Nabila, vous êtes sur un projet orientation. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment cette idée a mûri et cheminé? Parce que je pense qu'il y a une passerelle avec ce qu'on est en train de se dire aussi, un constat que vous avez fait. Quel était votre constat? Quelle est l'envie? Quel est le projet?
Par rapport aux enfants ou personnellement, tu veux dire?
Tout. D'accord. Dites-nous tout.
Alors du coup, nous, on a des profils assez atypiques. En tout cas, je vais parler pour moi. Après, peut-être que Christian voudra s'exprimer là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, moi, je viens d'une culture maghrébine, africaine, donc où parfois, c'est un peu compliqué de communiquer. En tout cas, je parle pour moi en tant que personne. Donc du coup, moi, j'ai essayé d'aller à contre-courant de ça, d'accord, avec mes enfants. Donc l'intérêt, c'était vraiment de libérer la parole, d'échanger avec eux, etc. Moi, dans ma famille, on m'a toujours dit, mais arrête de parler, agis, quoi. Tu vois, tu es toujours en train de parler avec tes enfants, en train de communiquer, tu parles des heures avec eux. À un moment, arrête, punis-les.
La pédagogie.
Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc du coup, c'était, j'étais un peu un ovni chez moi par rapport à ça, d'accord. Maintenant, tout à l'heure, en parlant de quand on a parlé des sports, etc., je vous disais que on leur a toujours, on a essayé en tout cas de faire en sorte qu'ils nous disent tout quand ils vont bien, quand ils vont pas bien, quand quelqu'un leur veut du mal, quand quelqu'un leur veut du bien, parce qu'ils sont pas en mesure
aussi de
savoir où est le bien, où est le mal, jusqu'à tard d'ailleurs. Et du coup, moi, j'ai essayé parce que j'en ai souffert moi personnellement étant plus jeune, de les mettre par exemple dans le privé. Parce que je trouvais que l'école où moi j'étais dans mon quartier, c'était pas terrible, quoi. Parce que moi, j'avais pas le droit nécessairement de sortir, trop. Sauf pour aller à la bibliothèque. C'était plutôt sympa parce que du coup, j'ai pu lire plein de bouquins. Donc avec le recul, je remercie mes parents. Mais en même temps, tu vois, en termes d'orientation, on a voulu les orienter vers quelque chose de pas d'élitiste, mais on a voulu en tout cas leur donner le choix. Et c'est ce que je leur dis tous les jours. J'ai pas envie que vous soyez astronaute ou influenceur ou n'importe quoi. Je veux juste que vous soyez heureux. Tu vois, donc du coup, c'est pour ça qu'on a essayé de les mettre dans de bonnes écoles pour cette seule raison-là, pour qu'ils aient le choix d'être jardinier ou d'être astronaute, mais au moins, ils ont les outils.
Ouais.
Histoire de pas de se dédouaner, parce que j'exagère quand je dis ça, mais de dire, bah, je t'ai donné toutes les cartes, maintenant, tu en fais ce que tu veux. Voilà, par rapport à l'orientation, en tout cas, scolaire qu'on a voulu leur donner. D'ailleurs, sur les trois, il y en a deux qui sont très bons, et puis il y en a elle, qui est toujours peut-être en l'air, qui s'en fiche, quoi.
Ben
qui
ouais.
en seconde et puis qui a des notes que plutôt moyennes.
Mais au moins et il a choix,
est, ouais, mais il est super content, il est heureux.
Okay.
Il est heureux et c'était pour nous c'était ça l'important. En tout cas moi en tant que parent, en tant que maman, ce qui était important c'est que mes enfants soient heureux.
Et toi Christian?
Nous ça va, hein, y a beaucoup de communication, un petit peu trop d'ailleurs. Donc on était que deux, c'est les fins inverses. Non, c'était plutôt tranquille. Hein. D'ailleurs, mes parents, pour moi, ils ont acheté un pavillon parce qu'ils ont vu que j'avais l'accord sensible pour tout ce qui était, comment dirais-je, terre-terre. Donc ils ont dit, dans un petit pavillon, c'est plutôt sympa.
Ouais.
L'un n'empêche pas l'autre. Je reviens un peu sur le côté des voies, parce que j'habitais à Choisy, pareil, du côté des pavillons, on croise pas trop, mais c'était un peu l'objectif du foot, c'était de sociabiliser, grâce au foot, de voir toute la population de la ville. Parce que quand vous avez joué au foot, ensemble, bon, pas bon, vous êtes un mec de la ville, il n'y a personne qui vous touche. Je vous fais quelque chose d'un peu réducteur, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et on se rend compte que finalement, si on construit nos enfants... à peu près bien jusqu'à 13 ans, il aura moins de risques de 15 à 23. Pourquoi je vous dis 15 à 23 ? Parce que pour moi, c'est l'âge de tous les dangers. C'est pour ça que c'est bien d'aller à la salle de sport, mais sortir avec un objectif. Je sors, je vais à la salle de sport, je vais à la boxe. Je sors, je vais au foot. Pourquoi tu veux rester dehors ? Pourquoi tu veux rester dehors ?
Marbérus, il est complètement en adéquation avec ton idée.
Moi, je pense que un enfant, il faut l'occuper avec ses loisirs, tout ça, comme ça, il n'a pas le temps de traîner.
C'est ça. Qu'est-ce t'as rien à faire dehors, t'es à la maison.
Il y a quoi dehors, on est passé par là.
Ouais.
On sait que il y a un peu de, comment dirais-je, d'ambiance.
Ouais.
On va le dire comme ça. Mais quelles sont les conséquences? On en parlait quand on était en off. On se rend compte que les gens vous parlent de millions de francs qu'ils ont fait en francs.
Qu'ils ont perdu
parce qu'ils ont rien pu investir, ils ont rien pu construire. Parce qu'ils n'ont pas payé, un prof pour avoir une bonne élocution, pour refaire des études. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet argent-là? Pas grand-chose. En tout cas, pas parce que...
En tout cas, il n'a pas fructifié.
Exactement. Non. Et donc, de 15 à 23, c'est vraiment très dangereux. Mais si vous avez construit votre enfant avec une bonne morale... De 15 à 23, il aura moins de risques qu'autre chose. Il va voir qu'il y a un groupe de jeunes, bah, il va se décaler dans le bus, il va avoir du discernement. Et s'il va au foot, il le voit avec son sac de foot, il n'y a personne qui lui dit rien, il le voit avec son sac de sport, il n'est pas avec un autre groupe qui s'est pris la tête avec un autre groupe parce que l'autre, il a vu sa copine, sa sœur, son téléphone ou quoi que ce soit, tous les faux sujets. Et on le recycle et on aide aussi avec l'association, on a aidé quand même pas mal de jeunes à se réinsérer justement pour l'éducation. Alors effectivement, les études ne font pas tout. Alors pour ma part, je leur dis qu'est-ce qui peut être court, parce que quand on a 15 ans ou 17 ans, on se rend compte que ceux qui sont dehors, ils ont un peu d'argent. Qu'est-ce qui fait que je capitalise rapidement? Un BEP électricien, parce que je sors, je gagne 2000 euros. Le week-end, je fais mon black. Parce que tout le monde sait qu'un électricien, ça fait du black. Je reprends 1000 balles par week-end. Finalement, en 2 ans, j'ai fait plus d'argent qu'un bac plus 8. Donc je reviens à ce qu'on disait. Plombier, c'est un peu moins glamour parce qu'on met un peu les mains dans la merde. Mais qu'est-ce qui fait que je peux capitaliser en peu de temps? Parce que quand on est jeune, on veut tout rapidement.
Ouais. La société actuelle veut tout rapidement maintenant.
Et ça permet, en étant électricien, d'avoir du discernement. Et si un jour, avoir un peu plus d'envie, repartir dans les études.
Un peu comme les mécanos qui ont tout le temps du boulot.
C'est exactement ça.
Parce qu'on a dénigré tous ces métiers pendant des années en France. Mais on les a en plus dénigrés en France, tu sais. Quand tu disais que tu allais dans une filière professionnelle, tu passais pour
c'était
un cancre à l'époque. Quoi. Tu
vois. C'est
encore le cas.
La branche générale.
C'est encore le cas.
C'est ça.
On se cartait de la branche générale, on était limite vu pour...
Mais oui, alors que quand tu restais en classique, voilà, en général, tu étais super bien vu, etc. Donc pour les parents aussi, il y a ce que ça renvoie.
Mais il y a ça aussi, c'est que là, on parle du projet Mbappé côté sport, mais il y a le projet Zuckerberg, en fait, dont on ne parle pas assez. D'ailleurs, D'ailleurs, si on regarde bien, en fait, c'est quand même surtout l'informatique aujourd'hui qui est quand même le meilleur moyen de gagner beaucoup d'argent très vite, mais il faut être un super geek. Mmh. Donc, c'est beaucoup de taf pour le coup. Mais ce n'est pas forcément être bien dans sa peau.
C'est ça.
C'est bien de le dire
aussi.
C'est
ça le problème.
Parce que quand même, passer son temps derrière un ordi, ce n'est pas forcément être bien dans sa peau non plus. Mmh. Et c'est là où, en fait, parfois, il y a aussi des investissements. C'est-à-dire que les parents sont comme tout le monde. J'ai envie de dire, ils sont pris aussi à la gorge. Donc, ils ont envie que leurs enfants, et je crois que tout parent a quand même envie que leurs enfants réussissent mieux que soi.
Bien sûr.
C'est la base.
Oui, bien sûr.
En fait, c'est pour ça d'ailleurs que chaque génération est censée en fait faire mieux que celle d'avant. Oui, en fait, ça. En tout cas, mieux s'en sortir que celle d'avant. En tout cas, être plus à l'aise, moins galérer, moins souffrir.
Mieux gagner sa vie même.
Ouais.
C'est pour ça que je disais à l'aise, mais aussi moins souffrir. Moins et c'est souffrir. Ça aussi qu'on oublie aussi, c'est que aucun parent ne souhaite que ses enfants souffrent autant que lui. C'est pas vrai. Enfin, on souhaite pas à ses enfants de souffrir. On souhaite qu'ils s'en sortent. Alors parfois, on sait pas bien où mettre le curseur et parfois on va être pas un parent hyper au clair avec ce qui se joue en nous et donc il peut se passer des choses qui font que on va mettre la pression à l'enfant. Mais j'ai envie de dire, ça part quand même plutôt d'une bonne intention a priori. Et c'est là où c'est complexe.
Contre nous, c'est un
problème.
On essaye de faire le maximum tant qu'on est sur terre et malheureusement.
Voilà, il y a de ça aussi.
Non, mais après, ils en font ce qu'ils veulent de toute façon.
Le fait qu'ils en font ce qu'ils veulent. Et puis il y a l'idée aussi que.
C'est clair, comme nous.
Qu'est-ce que ça veut dire que de réussir?
Mais oui,
parce qu'en fait, c'est toute la question qu'on se pose là aussi, que ce soit. Que ce soit d'ailleurs en sport, que ce soit dans les études, qu'est-ce que c'est que de réussir même en tant que parent pour son enfant? Enfin, finalement, c'est à part de pouvoir se dire que une fois adulte, on continue d'avoir une relation sympa, j'ai envie de dire, ce qui est quand même presque le meilleur indicateur, qu'on continue d'avoir une relation sympa, c'est qu'on a un peu réussi sa parentalité, que l'enfant est plutôt pas trop mal et qui, j'ai envie de dire, on a tous des traumas. Il n'y a aucun enfant qui on peut éviter d'être traumatisé, qu'on le veuille ou non. Ils auront tous des névroses, ils auront tous des trucs à nous reprocher. Enfin bon, et c'est toute la difficulté de la parentalité, c'est que c'est comme si aujourd'hui, comme on est dans un monde où chacun doit être un peu l'entrepreneur de lui-même, être parent aussi. Et donc il y a un enjeu de, à travers mon enfant, je dois prouver ma valeur.
Et ma réussite. Et
dans la parentalité, il y a toujours cette dimension. L'école nous renvoie ça, le sport nous renvoie ça, les autres parents nous renvoient ça, notre famille nous renvoie ça, de comment on a réussi ou pas à être un bon parent. Et donc là-dedans, je pense qu'il faut aussi permettre de comprendre qu'un parent, il n'est pas isolé du reste de la société et qu'il n'est pas tout seul et qu'en fait, aucun d'entre nous n'est en capacité de pouvoir juger la façon de faire d'autrui. Mais qu'on va avoir des limites. La seule limite qu'on va avoir, c'est est-ce que l'enfant va bien ou pas. Et va bien pas que au côté psychique, aussi le côté santé, déjà. Et le côté, nous ne sommes pas qu'un esprit. Donc, on a tendance à trop investir l'intellectuel. C'est là où le sport est hyper important pour un enfant aussi, c'est de se rappeler qu'il n'est pas qu'une tête. Et en même temps, de lui permettre aussi de pouvoir se dire qu'il n'est pas obligé de faire et d'être comme son parent a décidé. C'est aussi le lieu de l'émancipation, le sport. C'est-à-dire que c'est aussi là où on peut se dire « merde aux parents ».
Ouais, et puis l'idée justement de parentalité, c'est bien ça. Et merci Benjamin, c'est de se dire que n'importe quel parent a sa place et doit prendre sa place et toute... Les façons de fonctionner sont des façons de fonctionner. Personne ne veut de mal à son enfant, mais maintenant, des fois, dans notre façon de mettre en place les choses, ça fait du mal. Et il faut pouvoir le dire, l'accepter, l'entendre, sans être dans le jugement, mais juste dire, je suis à côté. Anne.
Ouais, moi, je voulais rebondir sur... parce que Benjamin, je bois tes paroles depuis tout à l'heure.
Pas trop, tu vas te faire bourrer.
T'as dit quelque chose de super intéressant. Tu as dit, à travers la parentalité, les parents doivent prouver leur valeur. Et ça revient à la gangrène.
T'as été dans son sens, en fait.
Non.
Fais une passe D.
Non, mais en fait, ce qui est super intéressant dans ce que t'as dit, c'est que... doivent prouver leur valeur. D'accord ? Alors que normalement, le parent doit faire briller ou en tout cas faire en sorte que son enfant brille. Donc il y a quelque chose de très égocentrique, paradoxal dans ça. Et moi, je voulais rebondir sur le côté insertion. Parce que c'est vrai que souvent, on projette des choses sur nos enfants. Est-ce que vous avez rencontré des parents qui était totalement à l'opposé du choix que l'enfant avait fait pour son orientation?
Oui, souvent. Souvent, c'est le cas. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Christian, dans le cadre associatif notamment, quand on a suivi donc, les jeunes du CEJ. Pour le coup, les parents, quand on parle avec le parent de manière individuelle et quand ensuite on discute avec l'enfant, parce que c'est souvent ce qu'on fait, on se rend compte qu'il y a un vrai décalage entre le besoin, l'envie de chacun. Mais qui est souvent, du coup, antinomique, quoi. Donc, et c'est juste hyper flippant. Parce que tu te dis, mais est-ce que c'est dans cette famille, on se parle ?
C'est ça le problème.
Ou est-ce qu'on s'écoute ? Parce que des fois, on peut parler, pas être écouté, pas être entendu. Donc ça, c'est une vraie problématique. Donc tu as raison, nous, on a déjà eu le cas. Après, comment, entre guillemets, réconcilier ces deux parties ? Parce que parfois, dans certaines familles, pour des raisons diverses et plurielles, en fait. Tu vois, parce que ça renvoie à tellement de choses, la parentalité. Tu disais, on a en nous envie d'être un bon parent. Mais pourquoi on a envie d'être un bon parent ? Est-ce qu'on a envie d'être un bon parent pour soi, de manière égocentrique ou même naturelle ?
C'est important. Pour le regard des gens.
Ou est-ce qu'on a envie d'être un bon parent pour l'autre ? Donc, c'est vrai que c'est sympa de dire que ton fils est en première année de médecine. C'est plus sympa que de dire qu'il est en plomberie.
Et puis, est-ce que Nabila, il y a pas il y a plein d'autres portes d'entrée, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, on n'attend pas aussi, dans le regard de nos enfants, de nous renvoyer qu'on est un bon parent ?
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a le regard de la société, il y a les injonctions, il y a nous, de façon égocentrique, mais aussi le regard de nos enfants. Et pourquoi je pose ça sur la table ? C'est parce que des fois, en tant que parent, on n'arrive pas à faire les bons choix, parce qu'on ne veut pas être mal aimé, on ne veut pas être le parent méchant, on ne veut pas s'opposer à notre enfant. Et du coup, lui, il ne sait pas ce qui est bon pour lui.
Bien sûr.
Ou pas. C'est nous qui allons le guider à se faire sa construction, ses propres idées. Mais en attendant, pour l'heure, c'est nous qui sommes responsables de faire les bons choix.
Bien sûr.
Et des fois, les bons choix pour lui vont se traduire par des larmes, de la frustration
évidemment,
qui est nécessaire.
Évidemment.
Mais en tant que parent, éducativement parlant, et je pense que Benjamin, tu vas te reconnaître dans ce que je dis, on est face souvent à des parents qui vont faire pas les mauvais choix, mais qui vont pas oser asseoir leur autorité parce que pas envie de frustrer l'enfant.
Et ça, c'est un problème sociétal, ce que tu es en train de soulever.
Les parents, je pense aujourd'hui, les parents, ils veulent être amis avec leur enfant.
Mais oui, c'est ça.
Pour leurs copains. Nous, nos parents nous ont mis des barrières, des limites. Sur le coup.
Ah, je croyais que tu allais dire des baffes.
Aussi.
Oui, bien sûr.
Aussi. Ça allait ensemble.
Ça va ensemble. Ouais. Les baffes qu'on a prises à l'époque, c'était pas la méchanceté.
Elles étaient honnêtes.
Avec du recul, aujourd'hui, on voit qu'on a reçu la meilleure éducation. Et ça se perd aujourd'hui.
Mais d'ailleurs,
donc la parentalité.
Moi, je suis pas d'accord.
Nous, personne, on essaie de transmettre.
Oui, après, c'est au cas par cas.
Mais
oui.
Non, moi, je veux dire. Non, mais quand je dis. En fait, tu vois, ce discours, parce qu'on était là avec un peu de dérision en disant on s'est pris des baffes. Et dire dans la même phrase que c'est la meilleure éducation, moi, je ne suis pas d'accord.
La meilleure éducation,
non,
c'est pas ce que j'ai dit. Les parents nous ont mis des limites. Ouais. À l'époque, on ne comprenait pas. Et aujourd'hui, avec du recul, on a reçu la meilleure éducation.
Mais c'est vrai qu'en fait...
À contrario, des parents qui veulent trop être amis avec leur enfant, qui vont dans leur sens uniquement.
Mais je pense que c'est même une question de... En fait, l'éducation, c'est en deux temps. Et c'est ça qui est parfois difficile, même psychiquement. C'est qu'en fait, il faut pouvoir à la fois penser à l'instant T... Donc maintenant, ici, maintenant, donc un temps très court, et en même temps penser le temps long, à savoir mes actes vont avoir des conséquences sur le développement. Donc il faut être à deux endroits en même temps, c'est la base de ce qu'on appelle la pensée complexe, et qui est loin d'être valorisée dans notre société, qui est très binaire. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas seulement des parents bons ou mauvais, c'est pas des individus, c'est aussi l'ensemble. Et qui fait que ce qui est très difficile dans l'éducation, c'est d'être à ces deux niveaux-là. Et il y a beaucoup de parents qui ont du mal à être au niveau du développement parce qu'en fait, on leur a pas appris à se projeter, on leur a pas appris ce qu'on appelle le stratégique.
Parce que c'est dur aussi d'être parent.
Mais c'est super difficile. Il faut avoir la disponibilité psychique pour pouvoir se projeter.
Enfin, en termes de temporalité aussi, il faut avoir du
temps. Et parfois, quand vous avez passé 15 heures à enchaîner deux intérims, vous êtes pas en capacité psychique de pouvoir à un moment supporter les larmes de votre enfant.
Bah oui, et puis de toute façon, on n'arrête pas de le dire, on le dira que trop peu, il n'y a pas d'école des parents, mais pour autant, il y a l'école de la vie et celle-ci, on est obligé d'endosser nos responsabilités. Quand on dit parents, bien sûr qu'on s'inclut. Et c'est important de le dire, parce que je pense qu'en France, la réelle difficulté, c'est qu'il y a trop de tabous sur la parentalité. Ceux qui prennent la parole, on va les indexer de pour qui ils se prennent, etc. Mais en tout cas, quand moi je dis les parents, on est dans le moule, en fait. Parce que finalement, on est tous parents à un moment ou un autre. Et même si on n'a pas mis au monde, on est parents parce que dans, en France, un parent, c'est l'oncle, la tante, le frère, la sœur, etc.
C'est donc, même le voisin qu'on croise dans la rue et le comportement qu'on a influence.
L'éducation n'est pas faite par les parents.
Et c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que c'est comment nous, on s'inclut dans nos réflexions et quand on tape fort et qu'on est agressif dans nos propos, c'est valable pour nous aussi. Et du coup, quand tu parles d'être dans l'instant présent et dans la projection de demain, c'est là où s'exerce notre vraie difficulté. Parce que comme tu l'as dit, l'émotion, il faut savoir que dans notre parentalité, quand on est face à nos enfants, il y a aussi quelque chose qui se joue en nous. Qu'est-ce que ça me renvoie à moi, amie, puis ensuite à moi, amie, la maman, quand ma fille pleure, fait une crise, que j'arrive pas à la calmer, et en plus, elle veut pas me parler.
Et là, et comment elle le ressent et que ça va rajouter un truc.
Et comment elle me perçoit et comment elle me juge dans son regard aussi ou dans sa. Elle, elle est démunie à ce moment-là. Donc quand elle me regarde, qu'est-ce que je lis dans son regard ou qu'est-ce que je perçois dans son regard. Et du coup, il y a tellement de choses différentes à plusieurs niveaux. Et c'est est-ce que nous, les parents d'aujourd'hui, là, nous, est-ce qu'on est en capacité d'accepter que nos enfants nous détestent par moment.
C'est dur.
C'est
mais,
dur, hein.
Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que pour, tu parlais tout à l'heure, tu disais dans l'éducation, il y a deux temps.
Christian, regarde Nabila. Il va parler après.
Il a l'air d'être mort de rien.
Ouais, ouais,
Enfant peut être ingrat.
Je dis pas que je le fais et que j'arrive à le faire. Il faut le faire. Parce que tu parlais tout à l'heure que tu disais que dans l'éducation, il y a deux temps. Effectivement, il y a le temps présent. Et puis, il y a ce que ton enfant va faire de ce que tu viens de lui donner. Parce qu'éduquer, c'est donner. C'est donner, c'est transmettre. Mais ce n'est pas que parler, c'est aussi faire. Et il y a beaucoup de parents qui parlent, mais qui ne font pas.
Et qui ne sont pas exemples.
Et en réalité, l'éducation, elle passe beaucoup par l'exemple. Davantage, j'ai envie de dire, en tout cas, à mon sens. Ça passe plus par l'exemple, ta manière de fonctionner, de ce que toi, tu fais de ta propre vie. Que de ce que tu dis.
Exact, mais complètement.
Tu vois.
Et avec une fille très grande, je peux vous le confirmer.
Mais moi aussi, pareil. Moi, j'ai 17 ans, il me rend dingue en ce moment.
Il t'observe, il voit tout.
Bien sûr.
Il voit tout.
C'est des snipers.
Exactement.
C'est le premier à te dire, papa, là, ta ceinture.
Mais oui, bah, c'est ça. Maman, t'as griffé
ton enfant à dire, dès que t'es en voiture, tu fais ça, tu traverses le passage piéton. Mais si tu fais l'inverse, t'es le premier.
Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure pour le coach. On a des rôles modèles.
C'est ça.
On a des rôles modèles et du coup, sans parler. On transmet,
bien sûr.
Parce que les enfants ils sont avec nous tous les jours,
mais
ils observent nos faits et gestes et ça va être les premiers à nous.
Des fois t'en fais des justiciers. Ouais,
à nous rappeler à l'ordre.
Christian, tu voulais t'exprimer.
Ouais, je me souviens plus, mais je vais revenir sur ce que disais.
Tu faisais ça même là.
Ouais, parce qu'elle arrête pas. C'était juste pour dire qu'en fait, juste pour rassurer les parents. De toute manière, les enfants, ils sont jamais contents.
Ouais,
donc, rassurez-vous, si vous êtes là tous les jours, papa, maman, pourquoi on n'est pas parti en vacances ? Mais j'étais là tous les jours. Et si vous faites de l'argent, vous n'êtes pas à la maison. Papa, moi, je voulais que tu sois là. Alors, rassurez-vous, ils sont jamais contents. C'est donc, il y a toujours des blessures émotionnelles.
Un enfant peut être ingrat.
Il est ingrat par définition.
Il est là que vous nous écoutez, les enfants. Vous êtes ingrat.
Non, pour moi, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, à 15 ans, quand vous lui dites quelque chose, il ne comprend pas. Vous voyez ce que disait Nabila tout à l'heure. Mon père, il a fait ça, j'étais à la bibliothèque finalement.
Cool.
On ne comprend pas sur le moment. On a la frustration.
Il faut des années, il faut de la maturité aussi pour comprendre.
Généralement, ce qu'on dit à 15 ans. Ils l'entendent à peu près à 25.
Ils veulent comprendre.
C'est pour ça qu'il y a à peu près 10 ans d'écart.
Ouais, ouais, c'est à peu près ça.
Ce que tu as dit tout à l'heure, Christian, quand tu as dit, en fait, entre 0 et 13 ans,
on se construit.
Il se joue énormément de choses pour que le parent soit tranquille entre 14 et 23.
Mais moi, je dirais même qu'entre 0 et 13 ans, tu poses les grosses bases. Ouais. Entre 13 et 18, ils les expérimentent par eux-mêmes.
C'est ça.
Exactement.
Et à partir de 18-25, on peut commencer à discuter.
Bon, voire plus tard pour beaucoup.
Entre les générations.
Ouais. Voire beaucoup plus tard.
Je fais des grosses... Quand là, je dis 18-25...
Hein, j'ai une image en tête là tout de suite par rapport à ce que tu dis. C'est sur Facebook, j'avais vu ça à l'époque. C'était genre 5 minutes d'éducation, économie 5 années de prison, un truc comme ça.
Bah oui,
c'est exactement ça.
Des fois, pour dernant, pour éviter des problèmes plus tard.
Donc oui, il faut qu'il le déteste.
Après, pour la réflexion, je reviens là-dessus. Après, pour la réflexion, je pense que aussi se construire, c'est passer pour la souffrance et la frustration. Si je dis oui à mon enfant, je suis pas son ami, je suis pas son copain. Pourquoi je vais lui dire oui ?
C'est ça.
D'ailleurs, on lui dit.
Quel est l'impact? Quel est l'impact de dire oui? Ah, parce que t'es mon fils, t'as le droit de tout faire. Non, je suis pas d'accord. Il y a des règles pour tout le monde, faut les suivre.
Et puis, l'ennui. Il y a la souffrance, la frustration, mais l'ennui. Mais... Aujourd'hui, dans l'ennui, c'est là aussi que les idées fusent et qu'à un moment donné, c'est aussi la place à l'introspection, la place à se projeter, à imaginer et puis à combler cet ennui tout seul.
C'est pour ça qu'on passait par le loisir et par le sport pour combler le temps libre à chaque fois.
Mais même rien faire.
Mais même parfois du rien.
Oui, rien faire,
du rien, ça peut être hyper intéressant parce que ça permet de rêvasser. Et c'est un truc qui est mal vu par l'école, par le sport, par la société, de rêvasser. Ouais. Justement, d'être un peu dans sa bulle et d'être ailleurs. Mais en fait, c'est comme ça qu'on... Alors déjà, d'un point de vue neurologique, c'est hyper important, en fait. Et en plus, c'est ce qui permet de développer l'imaginaire. Qui dit imaginaire dit curiosité, qui dit curiosité dit intelligence. Et je ne parle pas de l'intelligence académique, au sens de connaître plein de trucs. L'intelligence, c'est la capacité à faire des liens entre des choses qui, a priori, ne vont pas ensemble. Et donc, c'est par l'ennui qu'on arrive à faire ça aussi, et c'est par du rien. Et ça suppose aussi que les parents, pour le coup, de temps en temps, acceptent que leur enfant non seulement les déteste, parce qu'en même temps ça fait partie du jeu pour pouvoir aimer
du
quelqu'un.
Processus.
Oui, non,
et puis pour aimer quelqu'un, il faut le détester.
On l'a pas expliqué.
On savait pas, c'est ça en fait.
Est-ce que plus tu détestes la personne, plus tu l'aimes en fait,
mais bien sûr. On ne déteste que les gens qu'on aime en fait.
Et oui.
On ne déteste que les gens qui nous ont. Par exemple, on n'est déçu que par les gens qu'on a admirés. Et donc c'est important aussi pour les enfants qu'ils puissent nous faire descendre de ce piédestal. Donc il y a un moment où c'est nécessaire qu'ils nous remettent tellement en cause, non pas qu'ils nous détestent, mais que quelque part ils nous prennent de haut. C'est ça le moment le plus difficile.
Mais on
d'ailleurs.
A détesté aussi nos parents. En tout cas, moi personnellement, je les ai détestés plein de fois.
Et moi, je les ai détestés à chaque fois qu'elle me disait à 20h, tu rentres.
Mais oui.
J'étais par la fenêtre à 20h.
Et encore, t'avais le droit de sortir jusqu'à 20h.
Ouais, non, mais à
20h,
l'été, j'avais le droit de sortir.
C'était
16h.
Non, à moins 21h.
Mais en fait, quand je dis ça, c'est que, vous voyez, l'été, pourquoi je parle de l'été et de 20h? À 20h en été, il fait jour.
Il fait jour.
À 20h en été, c'est les vacances estivales.
Les vacances.
C'est la période où il n'y a pas école. Et pour autant, à 20h, tapement, je devais être chez moi.
Ah,
et,
dur.
Et c'était, vachement violent parce que, Mazar, on est des amis d'enfance, mais en pleine chasse à l'homme, à un moment donné,
tu dois rentrer.
Toi, on ne t'a jamais rattrapé.
J'avais une dérogation, c'était 21h.
C'est
parce que tu es rentré chez
toi. J'étais chez toi, chez toi, en fait. Et le lendemain, tout le monde dit oh, mais on ne t'a jamais retrouvé. Mais 20h, la chasse à l'homme, elle a fini. 4 alliés, tu vois, et je me mettais par la fenêtre, je regardais, et la cité était. Mais en plus, c'est à 20h ça commençait les festivités, tu vois. Genre, tout le monde était en bas, tout le monde rigolait, moi j'étais par la fenêtre comme ça, je pleurais, et je regardais ma mère, mais je la haïssais, et je comprenais pas à ce moment-là.
Pareil.
Et je me dis, mais à quel point tu me détestes pour me faire ça?
Mais oui, bien sûr!
Ce qu'elle avait compris, et je reviens sur ce que tu disais, Christian et Nabila, sur ce qu'on fait aujourd'hui, et même Benjamin, aura des impacts,
dans
un impact
ans, dans,
plus tard. C'est que
quand ils auront des enfants, même.
Pendant que je n'étais pas dehors à 20h, j'ai évité la prostitution juvénile. J'ai évité de voir ce que je ne devais pas voir.
Exactement.
Et à un moment donné, si tu es dehors à une heure qui n'est pas faite pour les enfants, bah, surtout, tu vas forcément faire des choses qui sont
à
pas...
À l'époque, c'était moins, on va dire, moins dur qu'aujourd'hui. Je trouve qu'on avait le problème à l'époque, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus...
Ça va trop vite avec les réseaux.
Trop vite.
Les réseaux, c'est un vrai problème.
Même sans parler des réseaux.
Non, c'est un vrai problème, les réseaux.
Les réseaux, c'est un réel problème.
Aujourd'hui, enfin, à l'époque, la pédophilie, c'était, on va dire, c'était très, très rare.
Non, c'était pas...
Ça savait moins.
On en parlait moins.
Soit on le voyait pas.
Vous le voyez pas, mais là, pour le coup, c'est la protection de l'enfance.
D'accord.
Qui va prendre le relève. La pédocriminalité, elle existe depuis
toujours.
Je vous rappelle que c'est les ogres du Moyen-Âge. Pourquoi on a des comptes sur les ogres? C'est les pédophiles, en fait.
D'accord.
Jeanne d'Arc a été recueillie par un pédophile. Enfin, c'est reconnu.
C'est pour ça qu'elle entendait des voix?
Ouais, apparemment.
Je comprends mieux.
Mais c'est pour vous dire que, en fait, là, pour le coup, non, la pédocriminalité, elle a toujours existé. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on en parle plus.
Les réseaux amplifient.
On en parle plus. Donc, c'est devenu quelque chose qui est plus simplement quelque chose de couvert et de secret. Parce que pendant des siècles et des années, ça a été quelque chose, en fait, que tout le monde savait que ça existait,
caché.
Que c'était dans les familles, comme on l'a dit aussi.
Et tu rentrais pas dans les familles, surtout.
Et on rentrait pas dans les familles.
Mais tu penses pas qu'il y en a plus aujourd'hui, parce que c'est plus facile aujourd'hui?
On en parle plus. En fait, aujourd'hui, on a rendu visible un phénomène qui était invisible.
D'accord.
Un phénomène dont on parlait pas, on en parle. Et avec les réseaux, effectivement, parce que les réseaux, ça a du mauvais, mais ça a du bon aussi.
Bien sûr.
Que parce qu'à un moment donné, quelqu'un a porté la voix et l'a dit, que d'autres ont reconnu. Et en plus, il y a autre chose, c'est que c'était systémique dans la famille. C'est-à-dire que, par exemple, dans une famille incestueuse, où on t'a jamais dit que c'était pas, voilà, on t'a jamais dit que c'était pas normal. Ouais. Et en plus, il n'y a pas d'espace pour en parler. Du coup, tu le vis. Et puis en plus, tu vas le reproduire. Mais tout le monde trouve ça normal parce qu'en fait, ça se passe partout. T'en parles à ta copine, bah ouais, mon père, il me fait pareil. Donc en fait, où est-ce que tu viens confronter bah, c'est parce que, en fait, l'enfant, il va se rendre compte que c'est pas normal parce qu'il va aller confronter ce qu'il vit aux autres.
Bien sûr.
Et là, il va se dire, comment ça, c'est pas normal? Comment ça, c'est pas bien? Parce que là, ma maîtresse, elle m'a dit que c'était pas bien que tu touches à mes parties intimes. Elle rentre chez elle et là, elle conscientise que c'est pas normal. Mais quand il y a une omerta. Et que les enfants, en fait, quand ils se parlent entre eux, en plus, malheureusement, ils comprennent deux choses qui sont... Même si ça lui est pas arrivé, il va dire « Ouais, mais mon frère, c'est pareil. » Enfin, et du coup, ça devient
c'est
normal.
C'est normal, quoi.
Mais ça devient normal, même si d'ailleurs les enfants qui sont victimes, et ça, je pense qu'il y aura un épisode consacré, mais les enfants qui sont victimes savent très vite que c'est pas normal ce qu'ils vivent. Mais par contre, c'est vrai, comme c'est couvert par le système et que y a cette difficulté à pouvoir justement en parler à l'extérieur, et puis parce que la société veut pas entendre, être très claire aussi. Et encore aujourd'hui, elle a du mal à entendre. Preuve en est, on continue de croire que la pédocriminalité c'est que des élites et des réseaux, des machins, des trucs, alors que pas du tout.
Dans les familles.
Et que c'est dans tous les milieux, dans toutes les communautés. Il y a pas une communauté plus amené à le faire que d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui est très ancré.
Un truc d'humain, quoi.
Bah, ouais, c'est un truc d'humain et c'est un truc de domination parce qu'un enfant en soi, c'est de la vulnérabilité absolue. Et donc un enfant, on peut lui faire un peu n'importe quoi. Et quand on a besoin d'expérimenter son pouvoir, c'est facile avec un enfant et notamment à travers le sexuel, qui est quelque chose qui est toujours un peu secret et qui est justement et qui est tabou, qui est le tabou de sociétal. Donc il y a quelque chose là-dessus.
Et heureusement heureusement qu'on va faire un sujet sur la sexualité et du coup sur toutes ces déviances, parce que aussi tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, est-ce que dans une famille où le sexe est tabou et on ne peut pas en parler, il ne vient pas s'expérimenter encore plus violemment dans la chair de l'autre, en cachette. Et personne ne peut en parler, de toute façon, c'est tabou.
C'est ça.
Donc, où est-ce que tu trouves l'espace pour dire que ce qu'on m'a fait, c'est pas normal, puisque déjà, à la base, le sexe n'existe pas ici.
Exactement.
Et c'est là où c'est vrai que, sur ces questions-là, moi, même en termes d'orientation globale, là où je suis un peu perplexe, c'est qu'on a souvent tendance à dire que c'est les enfants qui doivent dénoncer. Alors qu'en fait, c'est pas possible de dénoncer son parent, c'est extrêmement violent. Et c'est pareil pour la maltraitance d'ailleurs, c'est pas les enfants qui dénoncent. C'est à nous les adultes de repérer d'observer. Les indicateurs et les signes. Ouais. Et je pense que tous autour de la table, on est amené à voir des enfants. Et donc peut-être que les signes peuvent être intéressants à voir. Qu'est-ce que c'est qu'un signe de maltraitance? Comment justement, par exemple, toi tu es coach de boxe, tu vois des enfants qui ont des
enfants,
réflexes de garde.
En parlant, ils paniquent, alors qu'on parle d'une façon douce, calme. Et tu vois que t'imagines que dans la famille, il y a déjà des rapports de force qui n'ont pas l'idée.
Mais tu vois déjà tous ces indicateurs, comme on peut voir dans une classe, par exemple. On a des signes des enfants qui sont très pâles, qui ont du mal justement à pouvoir socialiser avec d'autres. Tout ça, c'est des indicateurs. Et c'est à nous, les adultes, je pense, tous autant qu'on est, de repérer sans demander à l'enfant de devoir parler, parce que c'est trahir. Il ne faut pas oublier ça.
Que les adultes soient en confiance pour sortir de cette idée que c'est dénoncer, que c'est pas bien, juste de déposer quelque chose, en fait. Moi, je vois que c'est pas normal, je le dépose. Si je me suis trompée, tant mieux, mais en tout cas, je le dépose. Et je pense qu'il y a une grosse responsabilité individuelle à prendre.
Prévention. Après, est-ce que les structures qui récupèrent ces enfants-là, c'est pas pire que ce qu'ils vivaient?
Oula, il y aura tout un sujet.
C'est encore un autre sujet.
Et je peux dire, pour y avoir mis les pieds, j'ai une idée bien faite de ça. Et je pense que oui, effectivement, il y a un gros travail à faire sur les structures qui accompagnent les jeunes, parce que en fait, tu mélanges l'agresseur, l'agressé, il y a tellement d'enjeux.
Et ça manque tellement de moyens.
Recrutement du personnel aussi, des fois.
Ouais, les moyens humains, financiers, les enjeux.
Mais en même temps, le
délinquant sexuel, c'est bon, vous pouvez venir.
Non, mais en même temps, le pédophile, tu veux qu'il bosse où, quoi? Le pédophile, il va bosser où il y a des enfants, quoi.
Il va à la source.
Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je prends le problème.
Oui, mais je parle au système de filtrer.
Pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on parle de harcèlement scolaire, etc. Il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire que le pédophile, il peut être là autour de la table, tu ne l'as pas vu venir. Le pédophile, il peut être dans des
actions. En général, il va là où il y a les enfants. Ils sont beaucoup éducateurs. Sportifs, sont beaucoup dans les écoles.
Regarde, moi, je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, tu peux travailler dans des bureaux, avoir une vie bien rangée, être tellement éloignée des enfants que tu seras même pas suspectée parce que on a même l'impression que tu les aimes pas.
Oui.
Et pour autant, ta pédophilie, elle peut se traduire dans ton foyer, dans les amis de tes amis, etc. Et en plus,
il n'y a pas de profession particulière.
Il n'y a pas de profession et il n'y a pas de profil.
Non, non. Ce qu'elle disait, c'est qu'ils aiment aller. Ils aiment aller.
Oui, mais par exemple,
ils aiment travailler sur le terrain de chasse. Ouais,
elle a dit, il veut dire quand t'as une petite famille, dit t'es éducateur sportif, comme ça t'as un peu plus de matière quand même.
Non, c'est pas.
Là, juste pour que vous ayez les chiffres, le dernier groupe qui a été démantelé de pédocriminalité, qui a été retrouvé, il y avait 180 personnes dessus.
Ah, j'ai lu 80.
Vous aviez 180, je crois. Il y avait des médecins, il y avait des profs, il y avait des policiers, il y avait des juges, il y avait des mécaniciens, il y avait des électriciens, il y avait des plombiers.
Dans la même affaire.
Il y a
des êtres humains.
Donc il y a pas de profil type, malheureusement, c'est vraiment partout, c'est tout le monde, enfin c'est voilà, ça peut être n'importe qui. Alors c'est vrai que et en même temps non, parce que vous voyez, par exemple, quand on est animateur ou quand on est enseignant, quand on est coach, quand on est amené à travailler avec des enfants, on est censé fournir normalement un extrait d'acte d'extrait de casier judiciaire.
Ça voudrait dire quand t'es déjà verbalisé, oui, quand t'es déjà
mais c'est l'idée, et c'est précisément là où bon,
il faudrait montrer pas de blanche, je pense.
Bon, vous arrêtez, vous êtes bien dissipé.
Voilà.
Mais du coup, ça
on
nous
se calme, la maîtresse nous a dit nous calmer.
Non, ça nous donnera de la matière. Seulement, il nous reste 10 minutes. Sur l'orientation, juste ouais, pour après que tu puisses mettre les pieds dans la tasse.
Non, mais moi, c'était vraiment sur l'orientation aussi.
Sur l'orientation, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui trop d'enfants qui sont dans des parcours d'orientation subis? Et souvent, on se demande, on nous remonte souvent le nombre d'enfants en décrochage scolaire, le nombre de professionnels de l'enseignement en souffrance. Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un lien entre le fait que les enfants subissent des orientations parce que qu'est-ce qui leur est proposé? Est-ce qu'ils ont connaissance de tout ce qu'il y a en fait sur le marché? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
On va rentrer dans un super débat là, sur l'éducation nationale.
En 10 minutes.
Avant d'être...
Déjà, tu vois, on parlait d'handicap tout à l'heure. Ouais. Par exemple, moi, pour mes propres enfants, ça a été extrêmement compliqué de gérer leur scolarité et c'est pas fini. Parce que tous les ans, tu as besoin d'expliquer à l'enseignant, au seul enseignant quand tu es en primaire et puis au 12 quand tu es au collège, bah, que l'enfant, il a un trouble, que ceci, que cela. Donc déjà, tu as un problème de formation. Déjà, au niveau de l'enseignement, etc., tu as un problème de recrutement qui est indéniable parce que là, les niveaux sont... C'est juste une catastrophe. Et tu as... donc, du coup, tu as beaucoup de problématiques. Donc, ça va être difficile de faire un petit condensé rapidement. En même temps, tu as tellement de choix possibles que trop de choix tue le choix, j'ai envie de te dire. Et moi, je trouve qu'en France, en tout cas, l'école, c'est lourd, quoi. C'est hyper lourd et c'est crevant.
Et l'orientation se complexifie là, avec leur parcours sup et leur truc là,
oui,
maintenant.
C'est
enfin, moi,
quoi.
Je suis très contente. Pour le coup, j'avoue que je suis passée avant ça et c'était pas plus mal.
Bah, nous, on est en plein dedans et c'est pas évident.
Et c'est, je pense, c'est extrêmement compliqué parce que justement, en fait, ça vient aussi. On n'est plus dans des filières, donc chacun fait son propre parcours. Il y a quelque chose d'hyper individualiste là-dedans aussi. Il n'y a plus le groupe classe, par exemple, qui est quand même l'idée aussi d'un moment, même l'enseignant va emmener un collectif vers un objectif. Et là, maintenant, c'est des individus qui doivent très tôt, très jeunes, devoir définir leurs orientations, quand on sait déjà qu'aucun d'entre nous n'a fait le même métier quasiment toute sa vie.
Oui, puis personne ne lui dit qu'il a le droit de se tromper aussi.
Et, bah, personne, mais on n'est pas dans un système. Le système français
ne permet pas l'erreur, en fait.
Je dirais pas l'échec, mais l'erreur, justement, de pouvoir se tromper.
C'est ça.
Choisir autre chose.
C'est même pas se tromper, c'est faire autre chose après, quoi.
Et puis comment tu choisis à 12-13 ans...
Tu peux pas, c'est impossible.
Ce que tu vas vouloir faire de ta vie alors que... En fait, tu n'as rien expérimenté.
Mais oui.
Aujourd'hui, dans la proposition qui est faite aux enfants, ils n'expérimentent pas, ils ne touchent pas. Ils vont faire un stage d'orientation, d'observation, où ils ne touchent à rien.
Cinq
et de
jours,
façon,
ça.
Puis cinq
jours,
ils sont assis.
Ils font de l'archivage.
Et selon les orientations des parents, parce que ça, c'est aussi vachement reproduction sociale. Clair. Parce que peut avoir un stage à quel endroit, en fonction... Tout le monde ne va pas à Canal. Hein.
Mais non, et souvent, en plus, les enfants qui ont des stages...
Bolloré, c'est pas terrible.
Bah ouais, mais ça reste...
Canal, c'est pas top. Après, ça, c'est personnel.
Ça reste même dans ton contexte.
C'est-à-dire
que ton enfant, souvent, il va faire son stage. S'il ne le fait pas avec toi, il va le faire dans ton cercle.
Ouais.
Donc,
du coup,
même, ça réduit le champ des possibles sur les métiers qu'il y a.
C'est de la reproduction sociale.
Ils ne vont pas choisir, en fait. Ils vont
c'est
pas
les héritiers de Bourdieu. Hein.
Ils vont aller là où papa, il connaît quelqu'un, là où maman, il connaît quelqu'un.
Ils mangent dans la même cuillère. Bronze, plastique, or, diamant. Barberis, mets les pieds dans la tasse.
Exactement.
On te laisse...
J'étais en train de l'écrire, là. Parce que... Sinon, j'allais... Non, c'est pas ça, j'allais perdre le fil. Est-ce que certains parents n'ont pas gâché la vie de leurs enfants.
Waouh!
Oui. Ah, c'est violent.
C'est plus la tasse qui l'a renversé.
Sans hésiter, je veux dire oui.
N'ont pas gâché la vie de leurs enfants, juste je complète, en faisant des choix pour eux, parents, mais pas pour les enfants.
Sans se mettre à leur place. Ah.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses projetées. Ouais.
Tu nous as fait une question comme ça pour ça. Ouais. Anne, il aime bien que les débats se poursuivent chez vous, en fait, les auditeurs.
Non, mais je suis un peu d'accord. Il y a trop de projetés. C'est-à-dire qu'on vit à travers l'enfant et on lui impose des choses qui ne correspondent pas à son caractère, à sa personnalité. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui gâchent la vie de leurs enfants et qui auront une reconversion autour des 30 ans, le temps qu'ils se reconstruisent.
Et moi, je vais retourner un peu la question, si Barbery m'autorise. C'est finalement, est-ce que être parent, c'est pas toujours un peu gâcher la vie de son enfant ?
Elle recolle la tasse.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des mots, du coup ?
Parce que finalement, moi j'ai envie de dire, on est tous un peu des parents maltraitants. Quelque part.
On parle d'émotion, là.
Voilà, ouais.
Émotion, oui.
Bah oui, parce qu'on ne peut pas être à la place de son enfant. On va l'amener à devoir gérer sa frustration, à lui mettre des cadres, Donc, à quelque part, l'empêcher un peu. Le gêner un peu. Donc, forcément, il y a...
Donc, empêcher, c'est faire souffrir.
Pourquoi on n'est pas dire le protéger ?
J'ai envie de dire, faire souffrir et protéger, oui, mais en même temps... cette souffrance-là, quand on est enfant, on la vit comme une frustration. Et on le vit. Et donc, il y a quelque chose où on a le sentiment que nos parents nous gâchent un peu la vie. Et quand on grandit, on fait la part des choses entre ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Donc, quand on grandit, on sait que nos parents nous ont un peu gâché la vie.
Quand tu dis ça, c'est pas aussi pour ceux ou celles qui n'arrivent pas à lâcher. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, on est le guide. Mais si tu oublies que tu es un guide et que tu montes dans le bus, tu descends du bus, tu couches dans son lit, etc. Tu lui lâches jamais la main.
C'est comment on passe d'être devant, j'ai envie de dire, les 6 premières années, ouais, ensuite être à côté.
C'est difficile, les 10 qui suivent.
Et après se mettre derrière. Et donc ça suppose des déplacements. Et ce truc de déplacer, justement, de savoir avoir quelque part la bonne position, comme on a toujours un temps de retard sur nos enfants,
ça aussi c'est un truc.
On se rend compte qu'ils ont grandi, eux le savent déjà depuis longtemps et nous on a toujours un petit point de retard, c'est là où on peut être amené à être un peu oppressant finalement pour nos enfants. Et c'est ça qui... Alors ça veut pas dire, encore une fois, j'ai une formule un peu choc, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est toujours un peu un mauvais parent, mais c'est aussi ça qui va faire qu'on peut en rire, dialoguer et permettre aux enfants, d'en avoir conscience, qui nous permet de nous améliorer.
Nabila voulait intervenir après. Okay.
Excusez-moi, j'ai été...
Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais pour le coup, moi, je vais conclure rapidement. Je pense que tu peux te dire que tu es un bon parent à partir du moment où tu vois que tes enfants sont plutôt heureux, quoi. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est ce que je pense vraiment. Et j'ai mis du temps à me dire ça. Parce que, au départ, tu as envie qu'ils soient dans des bonnes écoles, tu as envie qu'ils travaillent bien à l'école, tu as envie de tout ça. Bon, je les ai quand même laissés dans des bonnes écoles. Mais s'ils ne travaillent pas trop, ce n'est pas grave.
Parce que du coup, ils rattrapent la moyenne.
Mais ouais, exactement. Tu sors avec 10 et 12, ça passe.
C'est bon, t'as 15.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, comme on parlait de projection, effectivement, qu'on projette pas mal de choses sur nos enfants. Et c'est normal, c'est pour moi. Hein, c'est, parce que tu disais...
Mais on a tous rêvé.
Les enfants ne nous appartiennent pas. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'un peu si, quand même. C'est peut-être terrible de ce que je dis. Hein. Mais moi, pour moi, ils m'appartiennent un peu, mes enfants, parce qu'ils me ressemblent un peu. Et j'ai envie qu'ils me ressemblent un peu. Pas tout à fait. Mais là, on est dans l'ego, on est dans des questions philosophie, culturelle, etc., qu'on pourrait développer à un autre moment. Mais voilà, donc t'as envie qu'ils te ressemblent un peu et en même temps t'as envie qu'ils soient libres, mais c'est difficile de les laisser se libérer dans la société d'aujourd'hui, qui est d'une violence, en tout cas à mon sens, vraiment extrême et à tout point de vue, quoi. Donc tant que je les vois heureux, je suis heureuse. Voilà.
Et là,
c'est tout.
Un enfant, c'est pas une voiture. On peut pas le configurer à notre image.
C'est ça.
Déjà. Et je pense qu'un enfant, c'est le caractère des deux parents.
Donc déjà, il faut faire avec l'autre.
Et attention, parce que c'est pas forcément le bon côté des parents qu'il a. Il prend ce qu'il a envie de prendre.
Tu parlais de moi, du bon côté. Ah, pardon.
Un enfant pioche dans l'exemple qui l'intéresse, qu'il a besoin.
Ouais.
Et après, son caractère aussi. Et nous, en tant que parents, on ne vit pas par procuration. Quand on éduque un enfant, on essaye de donner le meilleur. On fait des erreurs comme nos parents en ont fait, comme nos enfants en feront. Donc il n'y a pas de meilleure éducation, pas de meilleure parentalité. On est juste un garde-fou et on essaie d'accompagner.
Oui, voilà. Et on est des êtres humains.
On peut se tromper, aussi.
Ils ne sont pas parfaits.
Voilà. Moi, je dirais deux choses. Déjà, la première, c'est la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce qu'on est. C'est pas parce qu'on a peur qu'on pense le protéger qu'au finalement on lui met pas plus de problèmes qu'autre chose.
Et on peut pas empêcher nos enfants de souffrir.
Exactement. Ouais.
Ça, c'est dur.
On peut pas le prendre. On aimerait prendre leur souffrance.
On n'est pas avec lui 24/24. Ouais, on le confie vrai. À l'école, on n'est pas.
Non, et même on aimerait pouvoir souffrir à leur place, ouais, mais de toute manière, sûr. Ça fait partir de la construction.
Mais ouais. Exactement.
Ça forge.
Exactement. Et faut, ils peuvent aussi ne rien avoir avec les parents. Et ça, faut en être conscient.
Ouais.
Ils peuvent être complètement. On ne sait pas. Ouais. Il peut être parce qu'il a un top, parce que n'importe quoi, parce que...
Bah, dans sa peau aussi, il peut dire en avant.
Ouais, ou il a un super manga, il adore ce personnage, il n'a rien à voir avec la famille. Bah, faut quand même l'accompagner.
Mais oui.
Et dans des fratries, vachement... en général, il y en a un toujours qui est comme ça.
C'est toujours, ouais. C'est exactement.
C'est le quota. C'est le quota.
C'est terrible à dire. Pour que tu viennes délivrer, parce que, en fait, c'est très profond ce que tu as dit. Nos enfants ne sont pas nous. Ce ne sont pas des mini-nous. Et l'objectif, ce n'est pas d'en faire des mini-nous.
Ils ont
leur personnalité. Par contre, c'est de les accompagner quoi qu'il arrive. Et je pense que...
Et là, d'aimer inconditionnellement quoi qu'il soit.
Quoi qu'il soit. Et je pense que là où on arrive sur un gros problème sociétal, c'est dès lors que notre enfant ne ressemble pas à ce qu'on a projeté de lui, il y a une forme de rejet qui se met en place. On a espéré dans la société des enfants qui soient dans une éducation avec un moule identique. C'est à l'image de l'éducation nationale, on en reparlera. Mais du coup, ce moule, à quel moment le tord pour que l'enfant trouve sa place s'il est trop serré. J'espère qu'à la maison, les gens vont pouvoir réfléchir et poursuivre l'échange. L'idée, ce n'est pas de taper sur les parents, mais c'est au moins de se dire les choses et de dire que il n'y a plus qu'à essayer, il n'y a plus qu'à donner le meilleur de sa personne pour essayer de faire au mieux. Et j'aime le répéter, c'est que même si on se trompe, finalement, ce n'est pas ça le problème. C'est comment on peut entendre, accepter d'entendre qu'on se soit trompé, quelle que soit la personne qui nous alerte. Mmh. L'enfant, le professionnel, le voisin, ton frère, ton père, ta mère, peu importe qui te dit que tu t'es trompé, c'est comment tu l'entends.
Il faut accepter.
Et comment tu le réajustes. Et comment on laisse le temps aux gens d'entendre, d'accepter pour pouvoir passer à l'action. Et je pense qu'il y a une étape primordiale qui manque, c'est qu'on va dire aux gens, là, ça ne va pas. Il faut faire ça, mais on ne leur laisse pas le temps entre les deux de...
De changer de cap.
Conscientiser, de l'accepter pour ensuite le digérer. Merci à tous, merci à vous tous et à bientôt. Personne ne doit rester à l'arrêt, n'est-ce pas?
Tout à fait.